Bonjour à tous, bienvenue sur ce 14e épisode du DZ Podcast, le show radio dédié à l'Algérie. Aujourd'hui, on reçoit deux invités que vous m'avez réclamé énormément, notamment dans vos commentaires sur les vidéos. On reçoit Nazim Sini, donc, qui est professeur agrégé d'économie et aussi entrepreneur dans le digital. Et on reçoit Gamal Abina, donc, qui est expert en questions internationales. Et tous les deux passent énormément, notamment sur AL24. Donc c'est un plaisir de vous recevoir, messieurs. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à nouveau. Aujourd'hui, nous allons parler en fait, de l'été qui a été très chargé en fait au niveau diplomatique, au niveau des visites en fait du président de la République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, donc qui est parti en Russie en juin, qui a aussi fait un voyage en Chine, accompagné de deux escales en Turquie et au Qatar. Qatar d'abord, puis Chine, puis Turquie. Donc, on va parler un peu des discussions qu'il y a eu autour de ces voyages-là et de l'importance en fait de ces discussions justement pour l'avenir de l'Algérie, notamment et de la région et de notre région en général. Première question que je voudrais vous poser, messieurs, c'est quelles sont vos impressions en général par rapport justement à cet été qui a été chargé justement en visite très importante pour l'Algérie? Nazim, peut-être d'abord.
C'est gentil. D'abord, merci beaucoup pour ton invitation. C'est vraiment un plaisir de retrouver le DZ Podcast. J'avais eu une première expérience qui a été vraiment très, très, très enrichissante. Et je remercie aussi mon ami Gamal. C'est un vrai plaisir de partager ce plateau avec lui. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup, que je respecte énormément. Et je tenais à lui dire joyeux anniversaire aussi, officiellement, devant tout le monde. Voilà. Et j'apprécie. Et puis, dès que tu m'as proposé de nous réunir tous les deux, j'ai accepté sans hésitation. Donc voilà, c'était en petite introduction. Maintenant, par rapport à ça, pour être très rapide et laisser la parole à mon ami Gamal, je trouve que c'est une séquence extrêmement intéressante et très importante pour le pays, parce que enfin l'Algérie revient sur la scène internationale, d'abord par son rayonnement, par son dynamisme. On connaît très bien l'appareil diplomatique algérien qui est très offensif et aussi qui est très respecté au niveau mondial. Et le choix des pays est très opportun et surtout n'est pas anodin, parce que ce sont deux pays qui d'abord sont les piliers des BRICS, d'accord, et surtout ce sont des puissances dans leurs domaines respectifs. D'abord, la Chine, c'est une nation purement technologique et industrielle. C'est pour moi le leader mondial, hein, qui va certainement passer en matière de PIB devant les États-Unis à l'horizon de 2030. Et puis la Russie, qui n'est plus nécessaire de présenter, puisque c'est une grande puissance militaire, une grande puissance également industrielle, mais également énergétique, notamment dans le pétrole et le gaz. Et je pense que cette séquence internationale qui s'est ouverte cet été, elle démontre la volonté de l'Algérie d'abord de renforcer sa coopération avec ces pays-là, qui sont un peu des moteurs économiques au niveau mondial, malgré les sanctions qui pèsent sur la Russie, et que, je tiens à rappeler, je fais une petite parenthèse, n'ont pas réussi à faire plier la Russie. Alors que je tenais juste à rappeler, et Gamal me soutiendra sur ça, je ne sais pas si vous vous souvenez d'une séquence où Bruno Le Maire, le ministre de l'économie française, disait à l'époque, l'année dernière, qu'il allait mener une guerre totale contre la Russie, une guerre économique, que les sanctions allaient mettre la Russie à genoux. Et ben, un an plus tard, voire 2 ans plus tard, que nenni, la Russie est toujours debout. Elle a même vendu plus de gaz et de pétrole qu'avant la guerre en Ukraine. C'est pour vous dire à quel point le destin parfois joue des tours lorsqu'il est manipulé par les Occidentaux. Et puis aussi, on peut parler de la visite du président en Turquie, également au Qatar. Et voilà. Et donc, je pense que c'est très important pour, comme je l'ai dit, le soft power algérien, pour le renforcement de la coopération économique et surtout aussi pour s'inspirer de ces modèles de développement, surtout en Chine, puisque le président a visité Shenzhen, qui est un peu le poumon économique d'innovation et industrielle de la Chine. Et je pense que c'est de très bon augure pour la suite. Et je voulais juste rajouter ça pour ma part, si tu me permets, c'est que l'Algérie ne tourne pas le dos à ses autres partenaires que sont l'Europe, les États-Unis ou même dans le sous-continent africain. Par contre, dorénavant, elle regarde ses intérêts et surtout, elle tisse des partenariats avec les pays qui la respectent et qui la jugent à sa juste valeur.
Gamal?
Oui, bonsoir, merci pour l'invitation. Un grand bonsoir à mon ami Nazim, qui est effectivement une personne que j'apprécie énormément pour la qualité de ses interventions et de son expertise économique qui n'est pas à démontrer aujourd'hui. Très documenté, puis très, très structuré. Donc, effectivement, il a abordé plusieurs questions. La relation Algérie-BRICS, dont les deux piliers, indiscutablement, sont la Chine, évidemment, la Russie pour le domaine militaire, mais c'est deux piliers importants. Alors, le plus important étant évidemment la Chine et l'Inde. Il se trouve que ce rapprochement de négociations directes qui était même pas nécessaire en vérité, puisque les Chinois comme les Russes sont d'accord pour l'entrée de l'Algérie dans les BRICS, ce rapprochement des Turcs même, on peut en parler, tous ces éléments-là démontrent que l'Algérie a enfin décidé de prendre son destin en main et de s'intéresser à ses propres intérêts géostratégiques et géoéconomiques. Donc c'est vrai que ce qui est de bon augure, c'est de penser que l'Algérie soit ou membre observateur ou simplement acteur direct des BRICS, sachant que les Chinois sont très intéressés par l'investissement massif en Algérie, comme ils l'ont fait d'ailleurs en Éthiopie, sachant que les Russes sont très intéressés par le développement de la relation économique, alors qu'elle était essentiellement basée sur l'équipement militaire. La Russie équipe énormément l'Algérie, maintenant ils veulent voir d'autres perspectives, et sachant surtout que l'Algérie, qui a eu un PIB qui a progressé de façon considérable grâce, c'est vrai, aux hydrocarbures, mais pas seulement, grâce aussi à un effort sur la production industrielle et l'exportation, on est passé de 98% d'exportation hydrocarbures à moins de 90% aujourd'hui, c'est une très bonne nouvelle. Et l'Algérie montre des signes sérieux de réforme et de volonté de faire en sorte que ça devienne, qu'elle prenne enfin le rôle qu'elle a à la dimension de cette nation, à savoir une grande puissance économique avant d'être une puissance militaire et politique. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, tous les espoirs sont permis. Ce rapprochement diplomatique n'est pas anodin. Ils le font à trois encablures de cette fameuse réunion qui est à la fin du mois d'août, au cours de laquelle, effectivement, c'est l'Algérie qui déjà va rentrer dans la Banque des BRICS, va investir une somme importante pour la Banque de développement, va certainement de plus en plus pousser son avantage. Et bien l'Algérie qui a des amis dans les BRICS, 4 pays sur 5, je parle donc de la Chine, de la Russie, évidemment du Brésil, Lula a toujours été très, très proche des Algériens, et les Sud-Africains pour des raisons historiques que je n'ai même pas expliquées. Il ne reste plus qu'à convaincre les Indiens, mais si l'unanimité est trouvée, l'Algérie rentre dans les BRICS avec une véritable réussite potentielle. Et si effectivement il y a une phase de transition, bon, observateur, pourquoi pas, il n'en demeure pas moins que l'Algérie a décidé enfin de vouloir sortir de cette phase de développement pour arriver à devenir une grande puissance, sachant les atouts dont elle dispose et sachant surtout effectivement l'union des planètes, à savoir que le pétrole et le gaz n'ont jamais été aussi chers, que les autres minerais, toutes les exploitations possibles en Algérie sont en démarrage. Par du fer, du phosphate, de l'or, de l'uranium. Donc l'Algérie a beaucoup de cartes à jouer, mais surtout dans le secteur industriel, la possibilité enfin de sortir de cette ostracisation traditionnelle qu'on a connue, à savoir que les produits algériens étaient peu exportés, vont l'être, et cette rentrée, si elle arrive dans les BRICS, permettra à la fois d'avoir accès à des fonds, je parle de cette fameuse banque de développement, d'investissements directs étrangers importants, les Chinois ont promis 36 milliards, ce qui n'est pas rien, et 20 ans d'idées en une seule fois, et surtout, on peut espérer, une influence politique majeure à travers le monde.
D'ailleurs, tu as parlé de 4 membres des BRICS donc qui seraient favorables à l'adhésion de l'Algérie, avec l'Inde, on connaît pas trop la position de l'Inde. Est-ce que vraiment il y aurait une hostilité? On a vu des papiers qui ont sorti comme quoi l'Inde serait éventuellement hostile à l'entrée de l'Algérie. Est-ce que c'est vraiment le cas, ou est-ce que ça reste finalement un autre membre qui reste à convaincre?
Alors, une des sources d'information, je la connais puisque j'ai rencontré le directeur de la publication, le Monde Afrique. Je suis pas d'accord avec sa lecture des choses. Elle est très hasardeuse, à mon sens. Je ne crois pas que l'Inde soit opposée à ce point à l'entrée de l'Algérie dans les BRICS. Pour deux raisons. La première, c'est vrai que les Indiens c'est un pouvoir particulier, le pouvoir de Modi, qui est un pouvoir très, on va dire, hindouisto-centré, tout simplement. Donc, tout ce qui, les 6,6 millions de musulmans chez lui n'existent pas. Il a un problème avec l'islam. Et en même temps, c'est un homme qui a été capable de prendre des positions courageuses par rapport à la Russie, puisqu'il a refusé de s'associer à ces sanctions. Bien au contraire, il a aidé les Russes, ce qui paraissait très surprenant pour un pays qui traditionnellement a tendance à pencher plutôt côté américain-anglais. Eh bien, il a décidé de choisir ses intérêts personnels. Maintenant, l'idée selon laquelle l'Algérie serait refusée, j'ai lu plusieurs articles assez ridicules d'ailleurs, souvent de la presse, d'une presse mal informée et mal intentionnée que nous n'allons même pas nommer, tellement elle n'est pas intéressante, mais il n'en demeure pas moins qu'elle l'annonçait avec tambour et trompette, que, soi-disant, un ministre indien aurait dit en sous-jacent, dans un hôtel caché dans une salle de billard peut-être, que l'Inde avait pris sa décision. Or, il faut rétablir la réalité, parce que quand on sort des scénarios un petit peu à la James Bond, on revient sur les choses réelles. D'abord, personne n'a pris de décision, mais 2 pays ont dit sont d'accord, 2, sans doute 4. Et surtout, ce qui va se passer, c'est qu'on ne sait même pas quels sont les critères pour faire rentrer un pays dans les BRICS, ils n'ont pas encore été établis. Donc comment peut-on écarter un pays, sachant que les critères d'éligibilité ne sont même pas mis en place? Alors, les critères font pas, il y a plusieurs éléments. La question économique, effectivement, compte, mais pas au point où on l'imagine, puisque l'Afrique du Sud, c'est 358 milliards de PIB. Donc, on n'est pas non plus sur un PIB extraordinaire. Les critères politiques, je crois que l'Algérie les réunit largement. Les critères géopolitiques, et largement encore plus. c'est l'Afrique du Nord, qui comblerait cette jonction entre l'Afrique du Sud et l'Afrique du Nord, que l'influence algérienne dans le Sahel n'est même plus à démontrer aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il s'est passé avec le Niger. Donc de dire cela, de dire que l'Algérie était écartée alors qu'il n'y a même pas eu encore de comité d'organisation pour connaître les conditions d'éligibilité, c'est aussi ridicule que de lire dans le marc de café en expliquant que le soleil va s'éteindre en 3 jours. Donc c'est beaucoup de propagande parce que effectivement, et ça me rassure, il y a autant de levées de boucliers, il y a autant de haine et de colère, c'est le fait que l'Algérie aille voir les Russes, puis les Chinois, puis les Turcs, qui sont quand même membres de l'OTAN, mais très proches de l'Algérie, eh bien c'est qu'effectivement, de l'autre côté, il y a des inquiétudes parce que l'Algérie commence à montrer des signes de réussite qui dérangent. Sachez, il faut savoir une chose de façon très claire et radicale, dès que l'Algérie fait quelque chose de positif, elle s'est toujours attaquée. Quand elle était enlisée dans le marasme de la guerre civile, tout le monde applaudissait des deux mains et tout le monde se fichait de l'Algérie. Donc l'Algérie, on espère être nouvelle, parce qu'on ne sait pas encore à qui, de toute façon, pose problème pour les pays qui lui sont soit concurrents, soit simplement d'une basse jalousie ridicule, ou simplement d'un positionnement de haine qu'on connaît traditionnel de la part de certains des pays ennemis de l'Algérie. Je prends le premier exemple le plus évident, Israël, qui effectivement verrait d'un très mauvais œil une montée en puissance des Algériens.
Je reviens à ce que tu as dit tout à l'heure, Nazim, sur justement l'alignement en fait de l'Algérie. Donc, il va voir différents partenaires. Elle peut coopérer donc avec des puissances occidentales, avec l'Europe, les États-Unis, etc. Comme elle peut coopérer avec les Russes et les Chinois, notamment les Russes par rapport au contexte de la guerre en Ukraine, où ils sont un peu indésirables. Du moins, c'est l'image que renvoient un peu les médias occidentaux et les chancelleries occidentales. Moi, j'ai noté une déclaration importante en fait du président Tebboune lorsqu'il était justement en tête à tête avec le président Poutine, donc avec les deux délégations, où il dit il faut favoriser l'utilisation des monnaies autres que le dollar et l'euro dans les échanges commerciaux. Est-ce que finalement ce n'est pas un alignement de l'Algérie? Est-ce que c'est pas une déclaration qui est hostile aux intérêts justement des occidentaux, une attaque directe contre les occidentaux que de dire ça en fait?
Non, pas du tout. Juste si tu me permets, je voulais revenir sur ce que disait précédemment Gamal, parce que je voulais abonder dans son sens, il a complètement raison. Et après, je prendrai vraiment une minute pour répondre à ta question. L'Inde ne s'est jamais opposée, c'est complètement faux. C'est juste que l'Inde, effectivement, de par sa politique, on va dire, universaliste, parce que effectivement ils sont très tournés côté anglo-saxon, ils se sont posé la question de manière informelle de savoir est-ce que c'était opportun de laisser entrer un seul pays ou est-ce qu'il ne serait pas envisageable d'élargir l'entrée à plusieurs pays qui seraient éligibles, tels que le Mexique, l'Indonésie, l'Iran, l'Arabie Saoudite, la Turquie, donc ou l'Égypte, qui représente un potentiel de croissance très important, parce qu'effectivement, Gamal a raison de le rappeler, c'est que les BRICS, d'abord, c'est un club informel. Ils n'ont pas un statut officiel auprès des Nations Unies, ils ont uniquement une banque commune, ils n'ont pas spécifiquement de siège à proprement parler, ils n'ont pas de secrétaire général, mais c'est une institution qui est en train de prendre du poids et qui aspire à devenir un peu l'antithèse ou l'antichambre du G7. C'est pour ça que l'idée qui est en train de germer petit à petit, c'est de créer un peu les E20, donc en contrepoids du G20, c'est-à-dire les émergents, les 20 pays les plus émergents de la planète, et je pense que l'un des principaux critères, au-delà des aspects politiques, géostratégiques, etc., c'est le potentiel de croissance. Est-ce que ces pays-là, en matière économique, dans la théorisation de l'économie pure, est-ce que c'est des pays qui ont un potentiel de passer d'un pays sous-développé à un pays en voie de développement? C'est surtout ça. Et c'est à l'époque, quand a été créé les BRICS, c'était surtout l'idée de montrer que des nouveaux maîtres du monde, des nouvelles puissances économiques sont en train d'émerger pour venir titiller un peu l'hégémonie des fameux G7 que sont le Canada, les États-Unis, la France, l'Italie, etc. Donc maintenant, pour répondre concrètement à ta question, oui, effectivement, cette déclaration, elle existe, elle a été faite, mais elle n'a pas été faite dans un esprit hostile aux États-Unis, ni dans une volonté de déclarer une guerre économique au dollar ou à l'euro, pas du tout. C'est juste que l'Algérie est alignée sur la plupart des positions des autres pays du monde qui veulent tout simplement remettre en question l'hégémonie d'une monnaie qu'ils ne contrôlent pas, sur laquelle ils n'ont aucun poids en termes de taux de change, et pour laquelle il y a, les conditions d'extraterritorialité. C'est-à-dire que les États-Unis sont le seul pays au monde qui ont cette capacité à sanctionner un autre pays parce qu'il utilise sa monnaie. c'est quand même dingue, hein. C'est-à-dire que dans l'histoire de l'humanité, ça n'a jamais existé. Et cette condition d'extraterritorialité, c'est pour ça que certaines entreprises françaises ont été sanctionnées, alors qu'elles n'avaient pas commis de délit sur le sol américain. Mais le fait d'avoir commercé en dollars avec des pays qui étaient sous embargo, eh ben, ils ont été condamnés par les Américains. Et rien que ça, eh ben, clairement, ça pèse et ça vient gêner le fonctionnement, on va dire, l'essor des autres pays émergents. Et l'Algérie, c'est tout simplement dit, est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il est probable de continuer on va dire, à faire du commerce international, à s'impliquer ou à s'imbriquer dans la mondialisation, en ayant des alternatives. Elle s'est juste posé des questions, au même titre que s'est posé la question la Russie, la Chine, etc. Parce que demain, on ne sait jamais, hein, je fais un scénario vraiment peu probable, l'Algérie est en conflit ou a une rupture diplomatique avec les États-Unis. C'est-à-dire qu'elle risque de ne plus pouvoir faire des échanges commerciaux avec le dollar. Ça, c'est une probabilité. Demain, pareil. C'est-à-dire que si elle doit faire des échanges commerciaux avec le dollar, elle risque d'avoir des problèmes. Et c'est là où ça pose une vraie problématique pour laquelle tous les pays, notamment ceux des BRICS, sont en train de se poser des questions en disant est-ce qu'on peut pas créer une monnaie commune et non pas une monnaie unique ? C'est très important de faire la distinction entre les deux. C'est-à-dire que la monnaie commune, ça serait une monnaie supplémentaire. Elle ne viendrait pas supprimer les monnaies nationales, alors que la monnaie unique, c'est comme pour l'euro. C'est-à-dire que l'euro est venu supplanter les autres monnaies nationales. Désolé, j'étais un peu long.
Non, c'était très, très clair. C'est parfait. Par rapport justement à l'économie algérienne, à l'état actuel de l'économie algérienne, est-ce que l'économie algérienne va devoir se préparer finalement à une éventuelle adhésion? Là, on parle par exemple de la réunion qui va avoir lieu fin août en Afrique du Sud, justement pour éventuellement examiner les candidatures en fait, justement des pays qui veulent rejoindre cette organisation là. Il y a eu une déclaration là hier ou avant-hier du président Lula qui a dit nous n'allons pas nous opposer en fait à de nouvelles adhésions, et justement nous devons faire en sorte que les échanges entre différents pays, par exemple entre le Brésil et la Russie, n'est pas lieu en dollars, quoi. C'est pas du tout logique qu'on échange avec l'Argentine ou l'Uruguay en dollars. Est-ce que justement pour adhérer à cette monnaie commune, comme tu viens de l'expliquer, est-ce qu'il va y avoir en fait une nécessité de transformer l'économie algérienne finalement?
Pas transformer, je dirais, mais la mettre à niveau. En fait, il faudra niveler l'ensemble des économies des pays qui vont composer les BRICS. Pourquoi ? Parce que pour qu'une monnaie commune puisse fonctionner, il faut qu'il y ait un minimum de convergence économique. C'est les fameux critères de convergence. Ça veut dire qu'il faudrait on peut pas avoir des pays qui ont des disparités de PIB, des disparités de développement économique trop importantes. Mais par contre, je pense que oui, à un moment donné, si l'Algérie aspire à intégrer les BRICS, il faut qu'elle puisse rehausser, j'allais dire, son niveau de jeu, hein, pour les amateurs de football, mais plutôt se mettre à niveau. Se mettre à niveau, ça veut dire s'ouvrir réellement aux marchés internationaux. Donc ça veut dire qu'il faudrait qu'elle puisse vraiment s'immiscer dans la mondialisation. Et un des pays à qui a complètement réussi la mondialisation, c'est la Chine et le Brésil. Parce que on a l'impression que la mondialisation telle qu'elle a été conçue a été parfaitement dessiné pour la Chine. Et c'est grâce à la mondialisation que la Chine est arrivée au point auquel elle est actuellement. Donc là, il y a ça à mettre en place. Et surtout, une réforme presque systémique de notre système bancaire et notre système financier qui est complètement désuet. Et ça, on en a déjà parlé lors de différents podcasts. Et même avec Gamal, on est tous tombés d'accord pour dire qu'aujourd'hui, vraiment, le point noir de l'économie algérienne, c'est son système financier. Et aussi la convertibilité du dinar, parce que ça, c'est un vrai problème. Aujourd'hui, le dinar n'est pas convertible en l'état, ce qui pose des difficultés lorsqu'on veut faire de l'import-export avec les pays du reste, avec les autres pays du monde. Également, une réforme aussi dans le climat des affaires. Il faudrait qu'on puisse rassurer l'ensemble des investisseurs étrangers pour leur faire comprendre que l'Algérie est un pays avec un état de droit, et que lorsqu'il y a un conflit avec un partenaire algérien, eh ben qu'aujourd'hui il n'y a pas de risque de spoliation comme il peut y avoir dans d'autres pays. Ça, c'est hyper important. Et puis aussi d'autres réformes, notamment je pense qu'il faut libéraliser certains secteurs. Pour moi, à mon sens, le marché algérien est tellement vaste qu'on peut accueillir, pour donner un exemple concret, une quatrième licence dans les télécommunications. Pour moi, je verrais très bien la vente à un privé d'une licence pour les télécoms, qu'on ait un quatrième opérateur. Je pense aussi qu'avec l'ouverture du ciel algérien, on peut accueillir des entreprises de transport aérien, des compagnies aériennes privées, pourquoi pas dans les low cost, etc. Après, il faut garder les secteurs névralgiques. Je pense que le oil and gas, l'armement, les activités de tout ce qui est spatial, satellitaire, etc., doivent rester dans le giron de l'État et doivent être hyper réglementés, d'abord pour des questions de souveraineté et aussi de sécurité nationale. Mais je pense que d'autres secteurs devraient être libéralisés. Et je pense qu'avec toutes ces petites réformes mises bout à bout, on peut niveler l'économie algérienne et la mettre au niveau d'un Brésil, comme l'Inde, la Chine ou la Russie encore. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que pour la symbolique, c'est très important. Vous imaginez, c'est-à-dire que les BRICS vont acquérir au sein même de leur organisation deux pays qui vont représenter l'Afrique, un au nord, un au sud. Et rien que cette idée-là, pour moi, je suis hyper enthousiaste.
Oui, Gamal, tu partages l'analyse de Nazim. Finalement, est-ce qu'il y a une volonté aujourd'hui? Est-ce qu'on voit vraiment les signes en fait au niveau politique justement pour aboutir à ces transformations-là, enfin à ces réformes-là justement, à cette mise à niveau comme dit Nazim?
Alors politiquement, oui, c'est largement affiché par Tebboune qui veut absolument ancrer l'Algérie non seulement dans la modernité, mais dans les réformes structurelles en profondeur. Après, ça reste quand même un énorme mammouth qu'il faut dégraisser. Il y a beaucoup de réticences, beaucoup de résistances, beaucoup d'incapacité de la part de certains acteurs de l'économie algérienne qui ne veulent pas réformer parce qu'il y a des vieux réflexes socialisants hein, de l'époque 70 qui sont restés, parce que la modernisation des banques, le secteur bancaire qui pose problème, n'est pas au rendez-vous, mais je rejoins totalement sur ces questions, à savoir, l'Algérie, par exemple, n'a pas intégré l'OMC, ça l'a préservé effectivement du choc économique de 2008, puisque les banques n'étaient pas intégrées, et en même temps, ça fait qu'elle reste encore en dehors du système mondial. Et c'est vrai de rappeler que la Chine qui a intégré l'OMC, la mondialisation, en gros, c'est des échanges, qui a intégré l'OMC, rentré dans le marché international pour pouvoir échanger avec tous les pays du monde sans être limité par des barrières douanières. Et l'Algérie a fait quelques accords comme ça avec l'Europe qui ont été calamiteux puisqu'on ne faisait qu'apporter et on n'exportait rien si ce n'est des hydrocarbures. Et là, la copie a été revue par la présidence algérienne qui veut sortir de cette logique du grand marché algérien qui fait qu'acheter et ne produit rien. Donc c'est vrai que la courroie de transmission naturelle d'un pays en termes d'économie, quoi. On va un peu rentrer dans les détails économiques puisqu'on est avec un économiste. La courroie de transmission, le flux d'échange, c'est la monnaie. Alors la monnaie, c'est pas nécessairement une monnaie commune, mais une monnaie, pas une monnaie unique, mais une monnaie commune. Qu'est-ce que je veux dire par là? On garde sa souveraineté sur sa monnaie nationale, pas de problème. Comme l'Angleterre d'ailleurs l'avait très bien fait, mais on a une monnaie d'échange qui peut être dématérialisée. D'ailleurs, ça peut être une forme de Bitcoin d'État hein, cette fois-ci avec un sous-jacent, avec la garantie des États derrière, pourquoi pas, une monnaie qui permettrait de dématérialiser l'échange, mais surtout de faciliter la relation entre les différents pays qui ne passeraient plus par le dollar. Alors pourquoi? Parce que, c'est vrai que c'était dit par Nazim, le dollar, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité où on donne dans cette fameuse monnaie fiduciaire en qui on a confiance, une confiance illimitée parce que la puissance militaire est au rendez-vous, à un État, les États-Unis, qui confisque la totalité des échanges internationaux parce qu'on passe par le dollar ou le pétrodollar. Et la problématique, c'est que quand un pays a une telle puissance, une telle domination, il fait sa loi, il l'a fait très bien, avec cette fameuse extraterritorialité qui donne le droit aux États-Unis, le droit, on parle de droit, de pouvoir sanctionner n'importe qui, où il veut, quand il veut, non pas par des actions en justice, à la limite, si on passe par la justice, il ne gagne pas forcément, mais par des actions de chantage. Si un pays, par exemple, si une banque, la BNP, a dû se plier au chantage de payer une amende, c'est parce qu'ils allaient confisquer à la BNP ses capacités de pouvoir échanger en dollars. Vous imaginez un peu la puissance.
Que l'euro 5 milliards de dollars d'amende. Hein.
5 tout milliards, oui, milliards c'est, tout à fait. Ouais.
C'est du chantage. Ça ne c'est pas une action en justice classique. C'est une action avec une certitude d'obtenir un résultat, à savoir payer une amende. Une amende pourquoi? Parce que la BNP ou d'autres institutions d'ailleurs, ou d'autres structures ont échangé avec l'Iran qui était considéré comme un pays à bannir. Vous imaginez un peu, c'est-à-dire que l'Amérique n'aime pas l'Iran, tout le monde doit être d'accord avec elle. Alors que c'est pas l'ONU qui parle. Donc c'est vrai que c'est problématique et que depuis Bretton Woods, depuis 73, depuis que les États-Unis ont dit bon, on peut émettre autant de monnaie qu'on veut avec les DTS, les droits de tirage spéciaux, ça nous permet de jouer la planche à billets, mais faites confiance à notre monnaie, même s'il y en a trop, c'est pas grave, on lui donne une valeur complètement artificielle, qui ne correspond pas à la réalité de ce qu'il y a dans les banques centrales, et encore moins à la réalité de la production de richesse, l'Amérique est surendettée, rappelons-le. Eh bien, cette spécificité fait que les États-Unis disent au monde entier, si notre monnaie s'effondre, tout s'effondre, c'est déjà le premier chantage, et en même temps, si vous voulez que notre monnaie tienne, acheter nos fameux T-bonds, les bons du trésor qui garantissent pour partie la monnaie. Donc c'est vrai que c'est vraiment une monnaie de singe, le dollar américain aujourd'hui, qui est en danger. La dédollarisation voulue par les pays du BRICS, c'est vrai, mais surtout Poutine au démarrage et puis la Chine commence à suivre. Le Japon va essayer en 2013, il ne faudra plus que le Japon avait essayé de faire les échanges au yuan pour éviter le dollar. Eh bien, la dédollarisation étant en marche, le dollar va perdre sa superbe et il y a fort à parier qu'il y a une dévaluation de la monnaie dans les années qui viennent. Mais le dollar ne disparaîtra pas. Sauf que les autres pays qui vont s'émanciper. On espère que les pays qui sont par exemple sous le joug du franc CFA s'émanciperont aussi. On risque de rejoindre, je dis risque pour l'Occident, mais pas pour nous, hein, de rejoindre effectivement un autre type d'échange et de monnaie, la possibilité de passer par une autre monnaie que le dollar, parce que, rappelons quand même, avant le dollar, la seule valeur réelle, solide, et avec laquelle tout le monde était d'accord, c'était l'or. Parce que l'or n'appartenait pas à un État. On est d'accord, l'or n'appartenait pas à un État. L'or était inégalement réparti, mais c'est vrai que ceux qui avaient de l'or étaient puissants. Les Espagnols ont été puissants grâce à l'or, ça faisait même un peu bien après. Mais l'or était une monnaie commune dans la mesure où c'était un minerai qu'on pouvait trouver partout et qui n'était pas confisqué par Fornox, par exemple, n'est pas confisqué par l'Amérique. L'or, il y en avait partout. Le dollar, c'est pas pareil. Celui qui tire le dollar, c'est la Banque Centrale Américaine. Et c'est elle qui donne les ordres au monde entier et qui fait faire du chantage. Donc, c'est très important de savoir que les BRICS proposent, c'est pas tellement le fait d'élargir, parce que l'élargissement, il y a toujours dans différentes régions. Vous avez en Amérique du Sud, par exemple, Mercosur, il y a plein de régions comme ça économiques qui sont mises en place. Mais c'est un élargissement politique, un élargissement économique et un élargissement identitaire en termes monétaires. C'est qu'on passe à autre chose. Et la dédollarisation voulue par les Russes qui fonctionne pour le coup, on se rend bien compte, cette dédollarisation va intéresser tous les États qui pourront enfin dire ma monnaie a une valeur, sans passer par ce fameux marché international qui sont souvent à côté à la City Wall Street, et en même temps ma monnaie, même si ma monnaie n'a pas la grande valeur qu'on lui donnera, on pourra échanger dans les différentes monnaies locales, on aura peut-être une monnaie, une courroie de transmission, une monnaie qui nous permettra d'échanger entre nous sans passer par la valeur de l'art. Quelle sera cette monnaie? C'est à définir, mais une chose est certaine, les Chinois ne veulent pas que leur monnaie soit trop cotée, ça ne les arrangera pas pour l'export. Donc, ils préféreront certainement une monnaie alternative qui permettra de pouvoir articuler des échanges dans ce fameux grand club que sont les BRICS, qui, rappelons quand même, en termes de proportion, tout de même 20, je crois que c'est 40% du PIB mondial et 25% de la population. Donc, c'est vraiment un club immense qui risque d'être rejoint par d'autres pays encore plus immenses comme l'Indonésie et la Malaisie, l'Iran, 80 millions d'habitants, la Turquie, pareil. Enfin, vous imaginez un peu l'accélération de l'histoire. Donc, c'est en cela que, effectivement, on peut imaginer que la question de la monnaie est une question centrale dans cette adhésion aux BRICS. Et c'est cette question-là qui va intéresser les Algériens en premier. Prenons-les, comme je le disais tout à l'heure, ils ont déjà mis du capital dans cette fameuse banque de développement des BRICS.
Tout à fait. D'ailleurs, si je comprends bien, cette monnaie commune, elle serait indexée en fait sur les matières premières, enfin les prix des matières premières finalement, plus ou moins.
Probablement. Un panier de devises de matières.
Ouais, en fait, c'est effectivement matières premières et surtout l'or. En fait, ça va être indexé sur l'or parce qu'ils estiment, comme le disait Gamal à juste titre, que l'or, d'abord, il y a une forme de stabilité et puis surtout, c'est ce qui est le plus représentatif, on va dire, en matière d'indexation par rapport à cette monnaie. Mais juste pour la petite anecdote, ce qui est drôle quand on assiste au lynchage des Américains, enfin au lynchage plutôt des Chinois par les Américains, c'est que, comme disait Gamal par rapport au fameux bon du trésor, le premier créancier des États-Unis, c'est la Chine. Donc c'est quand même fou que les États-Unis mènent une guerre commerciale à la Chine alors qu'aujourd'hui la Chine est le pays qui détient le plus de bons du trésor américain. Donc c'était juste pour la petite anecdote, on va dire humoristique, mais qui est réelle du coup. Mais effectivement, ce qui est important de comprendre et j'aime bien ce que disait Gamal, c'est que on est en train d'assister à un changement dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de notre civilisation. En fait, l'histoire contemporaine va nous montrer qu'on va assister à cette deuxième moitié ou les trois quarts du 21e siècle qui restent. D'abord, il va y avoir des défis énormes que les BRICS vont devoir surmonter ensemble, au-delà des aspects réchauffement climatique, des aspects pandémiques, des aspects aussi, vous le voyez, il y a des conflits qui naissent un peu partout. On va peut-être assister à la première guerre interafricaine avec ce qui se passe au Niger et la CDAO qui menace d'une intervention militaire à cause de la France, je tiens à le préciser, parce que la France derrière est en train d'alimenter ce conflit en jetant de l'huile sur le feu, et l'Algérie va avoir un très grand rôle, je pense, pour apaiser les tensions. Donc ça, c'est quand même grave, hein, ce qui est en train de se passer aux frontières de l'Algérie. Et il va y avoir aussi des défis technologiques avec l'émergence de l'intelligence artificielle, pour laquelle actuellement on n'a pas encore légiféré, on ne sait pas comment cette technologie va évoluer, quel impact elle va avoir sur notre quotidien, sur l'économie mondiale, sur nos relations, nos interactions sociales. Donc tous ces défis qui se présentent. En fait, j'ai l'impression qu'on est vraiment à l'aune d'un bouleversement, au même titre que lorsque l'humanité a découvert le feu. Vous voyez un peu ce que je veux dire tous les deux, c'est-à-dire que on est dans un véritable point de rupture, et je pense soit on prend ce virage de la bonne manière, soit au contraire on va creuser notre propre tombe. Et je pense qu'aujourd'hui, au lieu de s'acharner à mettre des bâtons dans les roues à l'Algérie, au lieu de critiquer constamment les BRICS, au contraire, je pense qu'il est important aujourd'hui d'avoir un équilibre au niveau mondial, qu'il soit un équilibre géopolitique, un équilibre pacifique, et surtout qu'on puisse tirer l'ensemble de la population mondiale, on est quand même 8 milliards d'êtres humains, vers le haut. Aujourd'hui, j'aurais aimé de voir tous ces pays-là s'accorder pour respecter les 17 ODD, tu sais, les 17 objectifs de développement durable, qui est la lutte contre la faim, améliorer l'éducation, etc. C'est-à-dire qu'il y a tellement de défis qui attendent l'humanité, et là on en est aujourd'hui à ce que des pays qui veulent garder leur précaré, qui défendent leurs intérêts, veulent mettre des bâtons dans les roues à des pays qui de toute manière sont des rouleaux compresseurs et des bulldozers, et qui vont toute manière, qu'on le veuille ou non, écraser le monde et dominer le monde. Donc, comme a dit Gamal, le dollar ne disparaîtra pas, l'Europe ne va pas disparaître, mais je pense qu'il y a un rééquilibrage des forces et on va assister à l'émergence de nouvelles puissances. Et ça, l'Occident doit le comprendre et doit surtout l'intégrer.
Mais est-ce que les BRICS, finalement, c'est un nouveau bloc à l'instar de l'Union soviétique avant 91, finalement? Est-ce que finalement, on a un bloc, on va se retrouver avec un bloc occidental, donc comme tu dis, qui fait tout justement pour garder sa domination, même au prix de guerre, de déstabilisation, etc., avec un bloc finalement qui réunit autour des BRICS de pays qui veulent justement, comme tu dis, un rééquilibrage, ou est-ce que finalement les blocs vont disparaître et on va se retrouver avec un monde un peu plus équilibré où il n'y a pas de bloc dominant finalement? Comment tu vois le monde justement dans les prochaines 50 années?
Je vais te faire une réponse très courte, parce que j'aimerais bien entendre la réponse aussi de Gamal, parce que je sais qu'il a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais pour moi, à mon sens, tu sais, même si demain les BRICS constituent un bloc, ils ne feront pas les mêmes erreurs que le monde occidental, parce qu'ils n'ont pas des relents impérialistes, des relents colonialistes. Ce sont des pays qui ont été des pays sous-développés de base. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsque ils vivent un essor économique, ils veulent faire profiter le monde entier. Ils ont cette culture du partage. Et surtout, eux, ce qu'ils disent, ils ne sont pas en train de s'accaparer des richesses minières, gazières, ou même intellectuelles.
Ils les ont déjà, en fait. Ils les ont déjà.
Et surtout, ils le disent clairement, si vous partagez nos idéaux, vous pouvez intégrer notre façon de penser et on peut commercer avec vous. Ils ne sont pas justement... ils sont pas dans une forme de léthargie ou d'ostracisme, pour reprendre l'expression de Gamal, en se coupant au monde. Au contraire. D'ailleurs, je tenais juste à donner une petite information que j'ai vue récemment. Est-ce que vous saviez que un tiers des publications scientifiques émanaient de Chine? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ces pays-là investissent massivement dans la science, dans la technologie, dans l'innovation, et ils la partagent avec le monde, ce qui n'est pas le cas des Occidentaux. Dans la culture occidentale, il y a forcément un dominant, un dominé. Et là, ce mindset-là, cette philosophie du monde est en train d'être revue complètement par les BRICS. Et moi, je pense que dans les 50 prochaines années, il va y avoir une véritable guerre, d'abord d'idées, et surtout, j'allais dire, de corpus idéologique. Parce qu'on va pas assister, je ne crois pas à une guerre militaire, à un affront, armée contre armée. Il va pas y avoir le feu nucléaire comme dans les années 70 avec la guerre froide. Pas du tout, parce que ce n'est dans l'intérêt d'aucun pays, ni du bloc occidental, ni à l'Est. Mais en revanche, vraiment, la véritable guerre, ça va être une guerre insidieuse au niveau des idées politiques, au niveau de l'état d'esprit, du mindset, de la jeunesse également. On va essayer de manipuler la jeunesse en lui faisant passer des fake news. Et c'est là où je pense que nous, on doit mener une vraie bataille pour faire en sorte de faire adhérer le maximum de gens à des idées pacifiques et surtout humanistes.
Justement, moi, je voulais entendre aussi l'opinion de Gamal là-dessus, parce que j'entends souvent cette idée comme quoi, effectivement, par exemple, notamment en Afrique, vu que tu parlais du Niger, finalement, que les Chinois et les Russes, justement, aident les pays africains, ça revient au même que si la France essayait d'aider les pays africains. C'est-à-dire qu'en fait, les objectifs sont les mêmes. On essaye justement de faire prévaloir les intérêts, ses propres intérêts, donc, du point de vue chinois et russe, et que finalement, c'est une autre domination, mais qui se manifeste sous une forme différente. Est-ce que tu es d'accord avec cette idée, Gamal, et justement, est-ce que tu rejoins justement Nazim par rapport à ce qu'il a dit à l'instant?
C'est pas difficile de rejoindre Nazim là-dessus, parce qu'il a évidemment raison, mais je vais répondre de façon radicale, puisque j'aime être radical quand j'entends des imbécilités. C'est complètement ridicule de dire, j'y viens ridicule, d'oser dire que le spoliateur n'a jamais rien apporté, si ce n'est dans ses poches, le pillage de l'Afrique, on voit dans quel état elle est aujourd'hui, va expliquer que l'autre partenaire, donc il y a d'un côté le spoliateur et le partenaire, voudrait faire la même chose que le barbare qui a spolié. Je rappelle tout de même que la Chine a été colonisée et réduite à l'état d'un état de drogué, parce que la reine d'Angleterre, Victoria, la plus grande dealer de la Terre, n'a pas voulu répondre aux demandes de l'empereur chinois. Il lui a dit, c'est absolument pas noble de votre part de droguer notre population. Je rappelle que c'est elle qui a envoyé des bateaux d'opium. Les guerres de l'opium, c'est ça. Tout l'Occident s'est mis, pour écraser la Chine, parce que sur un plan numérique, ils étaient supérieurs, à les droguer. C'est ça la réalité historique. Les gens ne savent pas ça. Donc c'est pas ces gens-là qui vont donner des leçons de morale. Ceux qui ont inventé l'esclavage et le racisme, parce que le racisme a été inventé. Ce n'est pas un truc naturel. Ce qu'on appelle la peur de l'autre, donc la xénophobie, c'est normal. Quand on ne connaît pas, on a peur de l'étranger. Le racisme, c'est un concept idéologique qui consiste à dire que ma race blanche est supérieure à tout le reste. Et tout le reste mérite d'être réduit à l'esclavage et d'être réduit à des massacres de masse, à des destructions, à même des génocides, comme on l'a vu en Amérique du Nord. C'est ça, le racisme. Eh bien, ces gens-là vont nous expliquer que les Chinois qui ont subi les guerres de l'opium, les Allemands qui ont subi, les Russes qui ont subi 4 ans de barbarie nazie et une colonisation effectivement rampante, qui ont été réduits à l'esclavage, qui étaient esclaves d'ailleurs, faut se rappeler que ça vient du mot esclave, ça, que les Indiens qui ont subi aussi des massacres de masse avec une famine organisée par Churchill, le héros de la Seconde Guerre mondiale, qui pour garantir l'approvisionnement de l'Angleterre a fait mourir de faim les Indiens par millions, et que ces gens-là seraient aussi pourris, on peut dire, on parle de pourris dans le sens de pourriture au sens effectivement biologique du terme, que l'Occident. Eh bien non, c'est pas possible. C'est-à-dire que ça peut pas être, non seulement ce sera pas pire, mais ce sera forcément meilleur par contraste. Alors maintenant, quand quelqu'un vient dans un pays, évidemment, il trouve son intérêt, comme tout le monde. Sauf que, quand les Chinois vont en Afrique, par exemple, je parle même pas des cas algériens, parce qu'on a une amitié avec la Chine qui est très longue, mais quand ils vont en Afrique, ils construisent des infrastructures. Ils ne contentent pas de venir piller. Ils construisent des routes, des autoroutes, des ports, des hôpitaux. Ils offrent, comme en Algérie, l'opéra d'Alger, mais ils offrent aussi des hôpitaux au Cameroun, on l'a vu, et dans d'autres pays. Alors parfois, évidemment, ils profitent de la situation pour s'en mettre un peu plus dans les poches, mais en termes concurrentiels, en termes de qualité de produits proposés et en termes de coûts de fabrication, les Chinois sont largement plus bas et largement meilleurs et proposent largement plus de solutions. On le voit actuellement en Éthiopie. 5 zones économiques spéciales placées par la Chine avec un partenariat extraordinaire qui fait que l'Éthiopie a un développement accéléré. Donc de dire que les Chinois ou les Russes feraient la même chose que l'Occident, qui a une tradition de domination raciste, de domination économique pour piller, non pas pour... Il n'y a aucun partage avec l'Occident. Quand ils viennent chez vous, c'est pour vous vendre de la camelote, de la ferraille, et pour vous exploiter vos richesses. On voit ce qui se passe au Niger, par exemple, qui inquiète les Français, c'est pas le coup d'État, ils s'en fichent. Hein. Il y a un coup d'État qui s'est fait par rapport au Tchad, le type n'est pas élu, pourtant on l'a tous félicité, je parle des Français. Ce qui inquiète, c'est effectivement le pétrole qui a été découvert par les Algériens au nord et au sud, l'or qui abonde à fond actuellement au Niger, et évidemment l'uranium, qui permet d'alimenter 30 à 40 % des besoins français en centrale nucléaire, dont l'énergie est de plus en plus rare, puisque la guerre en Russie et en Ukraine plutôt a réduit beaucoup d'alimentation énergétique. Donc la question de se dire, est-ce qu'ils vont faire pareil? Non, évidemment qu'ils ne feront pas pareil. Et ils l'ont prouvé. La différence, elle est là. Ils ne feront pas pareil. Et ceux qui ont fait pire que tout, c'est les Occidentaux, parce que 60 ans après l'indépendance, l'Afrique se pose encore la question de savoir si un jour elle va être développée. L'Asie, qui était loin de l'Occident, s'est développée. Donc la vraie question qui se pose, c'est de savoir pourquoi l'Asie s'est développée, alors qu'ils partent du même point que nous. Le même taux d'analphabétisme, la même destruction de masse, hein. Ils ont pris en plus 2 bombes atomiques au Japon, par exemple. Je parle même pas des massacres dans l'ex-Indochine qui n'ont pas arrêté jusqu'en 75 avec les bombardements massifs des Américains. Eh bien, ils ont pu s'en sortir parce qu'ils avaient la chance d'avoir le parapluie chinois à côté. C'est ça qui les a sortis de la galère. Alors que nous, malheureusement, il n'y a pas de parapluie, il n'y avait rien. On était livrés à nous-mêmes. L'URSS faisait un peu de travail, mais c'était une guéguerre, en vérité. C'était pas très sérieux. Eh bien, non, ce sera pas pareil. Et moi, j'allais dire simplement, c'est que le voleur et le pilleur, évidemment, a beau jeu de dire, ah, ces gens-là, ces Chinois, leur fait pas confiance, ils sont fourbes, fameux. Et surtout, ils vont prendre vos richesses comme ils l'ont déjà fait. Non, c'est pas pareil. Il y aura forcément une relation beaucoup plus saine parce que la Chine arrive à la fois pour gagner de l'argent, c'est vrai, mais comme un partenaire crédible. Et elle l'a prouvé. Je vous invite à regarder l'immense quantité de constructions faites par la Chine dans tous les territoires où ils ont été, particulièrement l'Éthiopie, ça va vous intéresser. Et on comprendra très vite qu'effectivement, la Chine est un peu plus sérieuse dans sa relation, que les Russes aimeraient avoir les mêmes relations économiques. Pour l'instant, ils sont sur le terrain militaire, mais ils font leur travail. Et surtout qu'on a échappé des guerres civiles avec les Russes, il faut le rappeler. Hein. La Centrafrique, c'est une guerre civile qui est arrivée. Hein. Enfin, c'est catastrophique.
Bien sûr.
Le Niger est stabilisé, le Mali est stabilisé, le Burkina est stabilisé, le Mali est stabilisé. Et tous ces pays-là ont compris qu'il y avait un problème avec l'ancienne puissance coloniale qui arrive avec ses gros bras, avec ses armes, qui prend l'armée locale pour des sous-hommes, pour des esclaves, littéralement, qui ne prennent pas au sérieux, qui voyagent d'un pays à l'autre comme s'ils prenaient le métro. Enfin, c'est ça qu'on a vu. Pas oublier la colère des pays africains, c'est pas un hasard. Donc, faut faire très attention au fait que la propagande, évidemment, occidentale, on le vit dedans, vous dit qu'attention, ils sont pires que tout. En attendant, je suis désolé, dans les faits, c'est pas ce que j'ai vu, hein. Je veux dire, si on regarde bien, vraiment, globalement, les faits, évidemment que les Chinois font de l'argent, personne ne fait les choses gratuitement. Il n'en demeure pas moins que, de toute façon, ce qu'a apporté la Chine en 20 ans, équivaut à 60 ans d'inertie totale de la bande d'Occident. Donc faire très attention à cela. Puis de l'autre côté, il y a une perte de prestige. L'Occident arrogant, prétentieux, méprisant, qui voit que ces petits nègres, ces petits bougnoules, que ces petits niaquois asiatiques qu'ils ont appelés jaunes alors qu'ils sont blancs, je le rappelle quand même, que ces gens-là osent enlever le nez. Ouais, ils sont blancs, parce qu'on dit que les Chinois sont jaunes, ça fait rigoler. Ils sont aussi blancs que n'importe quel Français. C'est vraiment incroyable ce racisme sur la couleur. Je trouve ça hallucinant. On dirait qu'ils sont pas comme nous, quoi. Eh bien, ces gens-là, aujourd'hui, se trouvent coincés. Comment faire pour empêcher que les partenaires sérieux qui sont aimés et appréciés, il y a des problèmes, évidemment, mais globalement, ils sont appréciés, puissent prendre notre place? C'est ça qui s'expose aujourd'hui. Je veux dire, par exemple, l'exploitation du pétrole dans le sud du Niger, c'est la Chine, c'est pas la France. C'est un marché qu'elle a perdu. Parce que les Chinois sont plus intéressants, parce qu'ils se foutent moins. Ils prennent de l'argent, il n'y a pas de problème, mais ils font le travail. Donc la différence, elle est notoire. Là, par exemple, il faut savoir que l'exploitation de l'uranium au Niger, c'est la France, c'est pas le Niger. Le Niger reçoit des bribes de richesses. Après, je vais juste modérer un propos sur un point. Nazim a raison de dire que la France alimente un petit peu la tension. L'Algérie a pris une position courageuse, il faut le rappeler tout de même, en disant nous n'acceptons pas l'intervention étrangère, et ils ont raison. Mais rappeler une chose essentielle, c'est surtout que sur la question, alors pour le coup, on ne peut pas dire beaucoup de choses positives sur Macron, il y en a quelques-unes. Là, quand même, je vais quand même lui rendre hommage sur un point, en dépit du fait qu'on sent qu'il est un petit peu tendu et énervé parce qu'il y a des pressions. Macron, en 6 ans, n'a fait la guerre nulle part. Il faut le rappeler, c'est important. Il fait beaucoup de bêtises, il a très mal géré son pays, il a eu beaucoup de problèmes, mais il n'a fait la guerre nulle part en 6 ans, et ça, c'est quelque chose qui est quand même particulier. Parce que son prédécesseur a fait la guerre, celui d'avant, c'est à cause de même. Enfin, tous ceux qui ont précédé ont tous fait la guerre, sauf lui. Et ça, c'est quand même quelque chose qui n'est pas anodin. Donc, je pense que Macron ne voudra pas intervenir alors qu'il a mis 500 soldats sur place. Il aurait pu faire un coup de force, il ne l'a pas fait. Et en cela, rien que pour ça, déjà, il a au moins à gagner au moins une petite lettre de noblesse.
Oui, enfin, je réagissais sur ce que tu viens de dire parce que je viens de voir une déclaration en fait de la MAE française, Colonna, là, qui vient de dire en gros les autorités en place, enfin, celles qui ont pris le pouvoir au Niger, ont jusqu'à demain pour arrêter leur coup de force. Ça ressemble un peu à une menace. Je sais pas s'ils vont intervenir ou pas, mais en tout cas, c'est vrai que c'est assez préoccupant. Voilà, ça ressemble à du chantage, effectivement. Justement, je vais essayer de faire le lien entre cette question africaine et puis les BRICS et notamment la Chine. L'Algérie a rejoint en fait l'initiative chinoise des nouvelles routes de la soie, Belt and Road Initiative, en fait, en 2018. Et justement, comme tu disais tout à l'heure, Gamal, ils annoncent 36 milliards d'investissements en Algérie. D'ailleurs, ils n'ont pas dit sur combien d'années. Cette information est sortie, mais moi, j'ai envie de savoir, en fait, quand on m'annonce un chiffre, sur combien d'années ça va être investi. Est-ce que ça va être sur les 10 prochaines années, les 50 prochaines années? Et je ne sais pas si vous avez l'information par rapport à la durée. En tout cas, ça c'est un chiffre massif, sachant qu'ils ont déjà investi 24 milliards autour des 24-25 milliards sur les 15 dernières années. Est-ce que ça va vraiment avoir un impact justement sur le développement de l'Algérie et de l'Afrique, sachant qu'il y a justement cette transsaharienne? Ça, c'est une question pour toi, Nazim. Mm-hmm. Et est-ce que finalement cette déstabilisation là au sud de l'Algérie, est-ce que finalement ça ne vise pas justement à faire en sorte de saboter ou de freiner un peu l'élan qui est donné par cette initiative chinoise qui, on le rappelle, vise aussi à exporter vers le marché africain via des pays pivots comme l'Algérie, par exemple. Sachant qu'il y a aussi le port de...
Le port de Chelchel. Ouais. Exactement. Le port de Chelchel, port centre, ouais. Alors, il y a beaucoup de choses que tu as dites que je vais essayer de de scinder les réponses petit à petit. Ouais. Mais clairement, on va nous traiter de complotistes si on commence à dire qu'effectivement le conflit au Niger sert à saboter, on va dire, les ambitions de l'Algérie. Je pourrais pas te répondre à cette question, j'en sais rien. Il y a peut-être du vrai, il y a peut-être du faux, mais ce n'est même pas le sujet, j'allais dire, parce que je pense que l'Algérie est en mesure de se défendre seule, de défendre ses frontières et de défendre son ambition. Maintenant, la deuxième chose que je voulais dire, par rapport aux 36 milliards de dollars d'investissement qui ont été annoncés, moi, j'ai pas d'informations spécifiques sur les années ou sur combien de temps ça va se faire. Mais à mon sens, hein, quand on observe un peu le volume d'IDE de la part des Chinois en Algérie, je pense que c'est sur un horizon de 5 à 10 ans. Je dirais même plus 5 ans parce qu'ils veulent vraiment accélérer la transformation économique de l'Algérie. Et d'ailleurs, ces 36 milliards vont venir financer des projets hyper structurants, notamment une ligne à grande vitesse, puisque tu sais qu'on a 58 wilayas, 2,5 millions de kilomètres carrés qu'il va falloir interconnecter. connecté. En fait, on a un pays continent et la première chose quand tu veux industrialiser ton pays, c'est lui mettre des infrastructures routières et ferroviaires de qualité pour pouvoir créer tout un écosystème industriel qui va du sous-traitant jusqu'au distributeur en passant par le logisticien. Donc ça, c'est la première chose. C'est d'abord créer un maillage territorial qui soit vraiment, qui réponde aux standards internationaux. Et je vais juste faire une petite parenthèse, si vous me permettez tous les deux. Je pense que l'Algérie a un modèle en tête de développement économique qui est celui de la Turquie. Parce que la Turquie s'est faite en l'espace de 30 ans. Elle est entièrement ouverte à l'économie internationale. Et la Turquie fait partie des États qui ont créé une sorte de capitalisme d'État. C'est-à-dire que vous avez un État très centralisateur, très impliqué dans les affaires économiques, mais par contre très libéral et très tourné vers l'économie extérieure. Et je pense que c'est vers ça que l'Algérie doit se tourner. On peut pas leur en vouloir d'avoir cette volonté de garder la maîtrise de certains secteurs d'activité. Mais effectivement, je pense qu'ils peuvent pivoter leur façon de penser, de revoir leur dogme économique pour dire on va faire comme les Chinois ou comme les Turcs, c'est-à-dire avoir un capitalisme d'État. L'État centralise tout. D'ailleurs, moi, je regrette qu'on n'ait pas créé un fonds souverain à l'image de la Norvège, à l'image des Qataris, etc. Nous avons la capacité de le faire. Nous avons d'abord les moyens financiers. Il manque plus que la vision stratégique pour la mettre en place. Donc, je reviens à mon propos du départ. Donc, 36 milliards dans le domaine ferroviaire. Deuxième chose également dans les infrastructures de base. Donc, on va améliorer également les aéroports de l'intérieur du pays. Je pense notamment à l'aéroport de Batna. Je pense à l'aéroport également de Schleff, etc. Donc, qui peuvent être de vrais relais dans notre volonté d'exporter ou d'être un peu un hub africain. Parce que c'est la volonté de l'Algérie, notamment à travers l'aéroport Houari Boumediene. Parce que certains, moi, j'ai entendu même des critiques, moi qui voyage très souvent à Alger, où les gens disent, ouais, c'est un aéroport qui est surdimensionné par rapport aux besoins de l'Algérie. Sauf qu'il a été conçu au départ pour représenter un véritable hub pour, selon vous, faire concurrence à qui ? À notre voisin de l'Ouest. Parce qu'aujourd'hui, tout le trafic de passagers passe par le voisin de l'Ouest. Et ça, c'est une hérésie. Par exemple, des Togolais ou des Ivoiriens qui veulent passer de l'Europe vers leur pays d'origine, lorsqu'il n'y a pas de ligne directe, ils sont obligés de passer par le voisin de l'Ouest. Je pense notamment à la communauté comorienne. Est-ce que tu imagines que à Marseille, nous avons la première diaspora au monde des Comores, et malheureusement, la communauté comorienne est obligée de passer autrefois par Sanaa, donc par le Yémen, pour pouvoir arriver aux Comores, à Moroni. Et aujourd'hui, ils sont obligés de faire des escales un peu partout dans le monde, notamment par la Turquie, par Istanbul, pour pouvoir rejoindre leur pays d'origine. Pourquoi l'Algérie ne se positionnerait pas pour être un véritable hub aérien ? Et moi, ça, j'y crois profondément. Autre chose dans laquelle les 36 milliards vont être investis, évidemment, dans les batteries, puisque l'Algérie est en train de s'intéresser de manière, on va dire, très dynamique au marché de l'automobile, au secteur de l'automobile, les Chinois ont proposé leur aide et leur coopération pour développer des batteries électriques, notamment à travers l'entreprise BYD, donc BYD. J'incite d'ailleurs tous tes auditeurs et toutes auditrices à se renseigner. C'est un géant mondial. Et aujourd'hui, BYD a attaqué le marché norvégien, qui, je tiens à rappeler, est un des marchés les plus difficiles d'accès parce que tu as des barrières à l'entrée extrêmement importantes. Et aujourd'hui, BYD nourrit des ambitions extraordinaires. Donc, ils veulent supplanter carrément Tesla. Et ils sont en train d'y arriver, puisqu'ils sont en train de passer haut la main la plupart des tests de sécurité et de fiabilité sur les véhicules électriques. Et tu verras, dans 2 ou 3 ans, on entendra parler d'eux comme on a vu l'émergence d'un Huawei, d'un Oppo, etc., etc. Également, dans le domaine des nouvelles technologies, puisque la Chine, comme je l'ai dit dans mon précédent propos, c'est une nation technologique. Ils s'intéressent à l'industrie spatiale, à l'industrie des satellites. Ils ambitionnent également d'envoyer un astronaute sur Mars, d'abord sur la Lune. Et tout ce qui est industrie spatiale, également aéronautique, peut intéresser l'Algérie. Donc voilà, en gros, ce sont des secteurs qui sont, pour moi, des secteurs d'avenir. J'ai oublié de parler également des énergies renouvelables, les ENR, sachant que la Chine, c'est le numéro un mondial des panneaux solaires. Donc je pense, pour moi, sincèrement, quand on veut inscrire l'Algérie dans le 21e siècle, dans la mondialisation, le meilleur partenaire, et c'est un partenaire de choix, c'est la Chine. Donc vraiment, moi, j'ai hâte de voir ce partenariat se concrétiser. Et tu verras, il va y avoir un effet ruissellement. En économie, on étudie beaucoup les effets ruissellement, c'est-à-dire que on va avoir des retombées sur tout un écosystème économique, industriel, des TPE, des PME. Et je rêve, moi, c'est vraiment ce que j'aspire, c'est je rêve de voir l'émergence des ETI, donc des entreprises de taille intermédiaire, qui vont avoir des vocations exportatrices, qui vont créer des emplois et surtout qui vont représenter l'essentiel de la valeur ajoutée d'un pays. C'est ce qu'on voit en Allemagne et en Italie, par exemple, puisque c'est des modèles de développement économique en Europe. Ils ont pratiquement que des ETI, des entreprises entre 500 et 1000 salariés, très dynamiques, qui pivotent très facilement, qui s'insèrent très simplement sur des marchés internationaux. Et tu verras que l'Algérie a cette capacité, notamment dans le domaine agroalimentaire. Quand je vois qu'on a des produits de très bonne qualité et plus compétitifs, par exemple, que des produits grecs ou espagnols, je me dis, mais où est le hic ? Pourquoi on n'a pas des produits algériens qui sont en abondance sur les marchés européens ?
C'est vrai. D'ailleurs, il y a de très bons produits, effectivement. D'ailleurs, dans la délégation qui a accompagné le président, justement, en Chine, il y avait à peu près 150 apparemment entrepreneurs ou chefs d'entreprise. Et apparemment, le secteur, justement, de l'agroalimentaire était le plus représenté. Je crois que c'était le tiers, en fait, de ces 150 personnes.
45 entreprises issues de l'agroalimentaire.
C'est ça. Donc apparemment, les Chinois seraient prêts à ouvrir en fait leur marché, y compris aux produits de l'agroalimentaire algérien. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant. Après, effectivement, t'as parlé de tout ce qui est justement pour le hub en fait, le hub aérien. On le voit, hein, c'est pas seulement des déclarations. On voit qu'Air Algérie est en train d'acquérir de nouveaux appareils. Il y a des nouvelles destinations, je crois, qui vont être créées à travers l'Afrique, s'il me semble bien.
Tout à fait.
Donc effectivement, ça semble intéressant. Il y a une question aussi que je voudrais vous poser, justement, parce que moi, quand je vois la visite en fait en Chine et la visite en Russie, j'ai l'impression que la visite en Chine est plus axée sur vraiment l'économie, alors que la visite en Russie semble plus d'ordre stratégique, c'est un peu lié au militaire. Est-ce que finalement, il n'y a pas moyen aussi, Gamal, de développer tout ce qui est économique aussi du côté russe, sachant que j'ai vu hier apparemment que, et tu me corrigeras là-dessus si je me trompe, que la Russie, l'économie russe apparemment, aurait dépassé, je crois que j'ai vu un chiffre de 5000 milliards de dollars de PIB, peut-être que je me trompe là-dessus, mais ce serait devenu une des premières économies d'Europe, voire la première. Est-ce que ça, c'est vrai ou pas?
Non, on peut pas dire que le PIB de la Russie a dépassé à ce point, mais il a un PIB qui a une progression considérable. C'est-à-dire qu'ils ont fait un saut qualitatif tellement incroyable que, par exemple, pour prendre un exemple très concret, ils étaient 17e exportateur mondial, ils sont passés en un an à la 10e position. C'est dire à quel point l'économie russe est, non pas résiliente, mais dominante. Alors, effectivement, ça a été dit tout à l'heure par Nazim, Bruno Le Maire s'est ridiculisé en disant qu'il allait mettre à genoux, non pas Poutine, non pas l'armée, non pas la politique, mais le peuple russe. Il a quand même vraiment, ses visées étaient assez malsaines. Il disait le peuple russe, qui est quand même assez crade, parce qu'il espère un coup d'État. Ouais. Donc, ils se sont plantés. Les Russes ont besoin de se développer économiquement parce que c'est la problématique de la Russie. Ils n'ont pas eu la chance d'avoir un Deng Xiaoping qui a réformé. Ils n'ont pas su prendre les virages. Ils se sont trouvés dans le piège de la course aux armements. Ça les a littéralement liquidés avec la guerre d'Afghanistan et avec la course contre le fameux bluff qu'a fait Reagan. On a appelé à l'époque Star Wars, donc la fameuse guerre des étoiles avec ses soi-disant boucliers, spatial qui aura intercepté les missiles russes, cette problématique n'existe plus. Les missiles intercontinentaux et hypersoniques russes garantissent 27 000 km, je crois, si je ne me trompe pas, une vitesse hallucinante de toucher les États-Unis en même pas une heure, sans aucune capacité d'interception possible. Donc c'est la question militaire est réglée côté russe. La question maintenant économique, donc on parle de l'économie de transformation qui s'est accélérée depuis 2014, hein, depuis la première vague de sanctions contre la Russie après la Crimée, en disant l'excès de la Crimée. Eh bien, il y a eu effectivement des sanctions européennes, molles, mais des sanctions qui ont existé. Et les Russes sont devenus autosuffisants sur pas mal de plans, dont l'agriculture, exportateur net maintenant, et ils assurent complètement ce marché, dont la question industrielle, des industries de transformation. Ils se sont très, très bien positionnés. Puis surtout, la Russie, comme la Chine, sont deux grands pays. Donc, c'est les plus grands pays quasiment. Enfin, le plus grand pays au monde, c'est la Russie, c'est la Fédération Russie. Ces deux grands pays qui ont des terres rares, à n'en plus finir, peu exploitées en Russie, mais qui existent, et en Chine, considérablement protégées. Parce que les Chinois cherchent les terres rares à l'extérieur pour préserver leurs propres terres rares, donc ces fameuses terres rares qui permettent de fabriquer tous les composants de haute technologie aujourd'hui dont on a besoin, particulièrement les questions des batteries par exemple. Et c'est vrai que les Russes ont besoin de développer leur économie et de développer les relations économiques hors militaires. Parce que la Russie avait mis tous ses atouts sur le militaire, ça fonctionne maintenant, mais ils ont besoin de développer ça. Et c'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs les Algériens, quand ils vont en Russie, parlent moins d'armées, c'est déjà acquis, que de développement et de partenariat stratégique en termes de production industrielle hors secteur de l'armée, d'accord? Donc on parle de tout ce qui est petits équipements, petites industries, transformation et autres. La question, parce que sur l'industrie lourde, les Russes sont bons. Ça, c'est un de leurs cœurs de métier, mais ils sont restés bloqués là-dessus aussi. Alors aujourd'hui, la Russie est une grande puissance qui a accéléré son développement parce qu'elle a bénéficié, il ne faut pas l'oublier, d'un soutien considérable de la part des Russes, évidemment, des Chinois, des Indiens, ça va de soi, du reste du monde, et surtout, et c'était inattendu, de la Turquie, qui a besoin de la Russie. Tout à l'heure, Nazim a fait référence au développement de la Turquie, il a raison. C'est un développement dirigé par l'État, particulièrement l'AKP, qui a fait un travail considérable sur la question économique, qui a été attaqué plusieurs fois depuis 2016, depuis qu'on a tenté d'assassiner Erdogan, mais la Turquie a bénéficié quand même de choses importantes que j'ai perdu de vue. On ne réussit pas comme ça spontanément sur un pays qui n'avait même pas, en 75-45% de gens qui savaient lire et écrire. On ne réussit pas du jour au lendemain sans raison. Il faut des soutiens financiers, il faut un apport économique, et ils ont bénéficié, malheureusement pour les Arabes, de la destruction de l'Irak, d'accord? Et ça a permis de pouvoir, pour les Russes, exporter les produits manufacturés, pour les Turcs, excuse-moi, les produits manufacturés en Turquie vers l'Irak. Ensuite, le pétrole gratuit, pétrole contre nourriture, ça a alimenté beaucoup la Turquie. Ensuite, il y a aussi l'affaire, évidemment, la Syrie, qui a permis aux Turcs de tirer leur épingle du jeu, mais surtout l'affaire du Qatar, qui envoie énormément d'argent en Turquie. Donc, la Turquie a une économie qui est dynamisée par l'afflux financier de capitaux étrangers. Ça, c'est une chose importante. Après, les réformes turques sont indiscutables et réussies, parce qu'ils ont su attirer les capitaux, ils ont su séduire à l'étranger et dire, notre pays est stable, il n'y a plus de coup d'état militaire, c'est fini depuis 97. Aujourd'hui, vous pouvez parier sur la Turquie et ça marche. Donc, il y a un dirigisme économique qui existe, c'est vrai. Et en même temps, c'est un modèle que l'Algérie regarde avec beaucoup d'intérêt. Mais moi, pour moi, le modèle le plus évident, le plus extraordinaire, il y en a trois. Il y a le MITI japonais, le modèle de direction de l'État de l'industrie. Il y a le modèle sud-coréen qui a montré que l'État ici dirigeait aussi les industries de modernisation. Et puis le modèle évidemment chinois, avec ces fameuses zones économiques spéciales qui ont développé l'économie chinoise. Donc tout ça fait que l'Algérie devrait, si elle regarde ces différents modèles, s'en inspirer et garder une spécificité algérienne aussi, pas oublier. L'Algérie a quand même à cœur que la société civile ne parte pas dans la misère sociale, qui est pas des milliardaires d'un côté et des millions de pauvres de l'autre. Donc, tous ces éléments-là font que l'Algérie a décidé de parier sur le dirigisme d'un côté de l'économie pour les grandes structures de l'État, pétrole, gaz et autres minerais. Ça, c'est un précaré de l'État. Il faut que ça le reste. Il faut pas privatiser ces secteurs. Ce serait une horreur. On serait aux États-Unis à ce moment-là. Et de l'autre côté, de garantir que le secteur privé, partenariat public-privé fonctionne et se développe aussi. Je pense qu'on a un coup à jouer maintenant, chose importante effectivement, par rapport à la question que tu m'as posée, c'est est-ce que la Russie va avoir un point déterminant? La Russie, c'était le militaire, mais maintenant ils veulent changer. Et le fond, ça commence à évoluer. Les Russes ont besoin de l'étranger pour développer leurs propres industries et ont besoin de montrer qu'ils sont des partenaires autres que militaires. Sinon, ils vont finir par faire figure du père fouettard qui arrive avec le gourdin quand les Chinois arrivent avec les solutions économiques. Donc, ça séduit pas. Au début, ça aide un peu. Mais après, il faut vraiment montrer que la Russie, qui reste une grande puissance, par exemple, spatiale, faut l'oublier, ça, c'est important.
Bien sûr.
S'arrime dans la modernité, que la Russie s'arrime dans leurs relations économiques. Et puis, la Russie, c'est pas rien aussi. C'est aussi avec l'Inde, le plus grand producteur de céréales au monde, quasiment. États-Unis, Inde, Russie. C'est pas rien. On parle beaucoup de l'Ukraine. Mais l'Ukraine, c'est une goutte d'eau par rapport à la Russie. Donc c'est important de rappeler que aujourd'hui, j'ai envie de dire simplement que les Russes ont démontré avec la volonté de vouloir les asphyxier qu'ils avaient les mailles du filet entre leurs mains, qu'ils avaient un contrôle d'une économie qui était plus diversifiée qu'on imaginait, parce qu'on réduisait la Russie à l'armement, il y a beaucoup plus de choses en Russie que cela, et surtout qu'ils avaient une influence géopolitique considérable dans laquelle ils ne tombent plus dans le piège du communisme et de la destruction par l'État de l'économie, mais simplement d'une économie alternative que j'appellerais mixte. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le capitalisme sauvage américain, on est dans une option beaucoup plus humanisante, en l'occurrence, même si ce n'est pas l'humanisme, de dire on a un État fort qui va protéger, et je le dis toujours, les faibles. Si un État fort ne protège pas les faibles, ça devient l'ultralibéralisme, et c'est le pire modèle qu'on puisse importer. Et dernière remarque sur la question du hub, parce que j'aime beaucoup cette question que Lazim a évoquée, et que j'apprécie d'ailleurs par ailleurs, le hub aérien, c'est non seulement une nécessité pour l'Algérie, qui en a les moyens, n'oublions jamais quand l'Algérie veut construire une centrale de dessalement dans la mer, elle n'a pas besoin de faire des montages financiers délirants pour la faire. En 6 mois, c'est fait. On a l'argent. On a les réserves de change. On a de l'argent qui coule à flot depuis des années. Ce qui est compte aujourd'hui pour l'Algérie, c'est que la centralité du plus grand pays d'Afrique et du plus grand pays arabe, consacré aujourd'hui, depuis que le Soudan a été partitionné, le fait qu'on soit pile au centre de la Méditerranée devrait faire naturellement de nous un hub aérien qui distribue sur toute l'Afrique avec une distance raisonnable, plutôt que sur les pays limitrophes excentrés comme la Turquie ou le Maroc, qui, eux, ont des parcours beaucoup plus longs pour pouvoir assurer le fret aérien. Donc, c'est vrai que c'est quand même très étonnant que les autorités algériennes n'aient pas déjà, dès maintenant, avec de grands aéroports qui ne sont pas surdimensionnés, ils sont sous-dimensionnés, moi, je dis. On en est là. Enfin, à l'international, on est sous-dimensionné. Eh bien, ces aéroports devraient distribuer toutes les destinations africaines. Pour prendre un exemple très concret, on parlait des Turcs tout à l'heure, la Turquie dessert 40 pays africains et ils ont fait ça en moins de 10 ans. Donc, c'est une chose qu'il ne faut pas perdre de vue. Le Qatar, Fly Emirates, toutes ces grandes compagnies sont devenues des hubs qui sont les plus importants au monde. Donc, l'Algérie devrait effectivement s'inspirer de cela.
Pardon, je voulais juste, parce que ce que dit Gamal est très intéressant. Istanbul s'est construite autour de ce hub. D'ailleurs, tous ceux qui veulent voyager, rejoindre le Moyen-Orient ou l'Asie du Sud-Est passent par Istanbul. D'ailleurs, il y a eu des investissements de plusieurs dizaines de milliards de dollars consentis dans le nouvel aéroport qui peut accueillir jusqu'à 100 millions de voyageurs. Et il y a même des compagnies qui se sont positionnées sur ce créneau. Turkish Airlines, Emirates, il vient de le dire, Gamal, et je pense qu'effectivement, je le rejoins parfaitement. Il faut absolument qu'on se positionne dès maintenant comme étant le véritable hub, notamment sur la zone Afrique du Nord, Afrique subsaharienne et même Moyen-Orient. C'est-à-dire qu'on pourrait connecter plusieurs régions du monde et c'est une manne financière qui serait considérable. Pas pour l'aspect touristique passager. Je pense même que pour le fret, tout simplement le passage de marchandises, ou même on pourrait faire du handling. Le handling, c'est quoi? C'est du service aéroportuaire pour les compagnies. Les compagnies pourraient même, avec le fait qu'on soit un pays producteur de pétrole, venir se charger en kérosène à moindre coût et donc pouvoir repartir. Et je pense qu'il y a vraiment des choses à faire là-dessus. Et ben voilà, tu as maintenant Gamal et moi qui lançons un appel solennel aux autorités. Faites d'Alger un hub. Faites d'Alger un hub.
Mais moi, la question qui me vient comme ça à l'esprit quand j'entends parler de ce hub aérien justement à Alger, c'est Air Algérie en fait, parce que tu parlais justement de la Turquie à l'instant et d'Istanbul. La Turkish Airlines, c'est la compagnie qui a le plus de destinations au monde.
Exact.
Je veux dire, c'est une entreprise énorme, c'est une des meilleures compagnies aériennes du monde. Est-ce que justement, il faut une mise à niveau d'Air Algérie, complètement réformer le modèle d'Air Algérie, d'accord? Pour justement arriver à faire en sorte que ce hub aérien fonctionne et marche. Parce que, évidemment, on veut que ce soit Air Algérie qui déplace tous ces passagers-là, en majorité.
Bien sûr, mais je vais te dire, ce que j'apprécie dans cet exercice des Z Podcast et avec Gamal, c'est que on est en capacité, nous trois, de faire une autocritique. Évidemment, Air Algérie, c'est problématique. C'est-à-dire sa conception telle qu'elle est aujourd'hui, avec le nombre d'employés qu'elle a, avec le manque d'appareils qu'elle a, avec le management qu'elle a, pose un problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle a un plafond de verre qu'elle ne dépassera jamais. Parce qu'elle doit être elle-même réformée en profondeur. Elle doit être réformée en profondeur. Il faut absolument qu'on lui fasse gagner en compétitivité, qu'on augmente les rotations. Moi, je pense même il faut aller plus loin. Pourquoi pas ne pas revoir complètement son identité visuelle? Pourquoi pas ne pas revoir son logo, diminuer le nombre d'agences et puis la faire rentrer dans le 21e siècle? C'est-à-dire qu'on soit en capacité d'acheter des billets en ligne, qu'on puisse nous-mêmes s'enregistrer si c'est nécessaire. Garder évidemment le côté, il ne faut pas déshumaniser la relation commerciale parce qu'on a quand même beaucoup de personnes âgées qui voyage à travers la compagnie nationale. Donc, il faut garder cette proximité qui fait le succès de la compagnie. Mais je pense qu'il faut la moderniser. Mais pas que elle. La plupart des entreprises étatiques aujourd'hui, y compris, et là, je vais dire un sacrilège, c'est la Sonatrach. Je pense que toutes ces entreprises-là doivent se tourner vers vraiment un management moderne. Et surtout, doivent pivoter leur modèle économique. Elles peuvent être des entreprises de rente, parce que il y a pas de souci, c'est leur ADN. Mais il faut absolument qu'elles s'inscrivent dans le 21e siècle, c'est-à-dire des entreprises qui peuvent pivoter leur business model, qui peuvent aller vers une expansion internationale, qui peuvent également réduire la voilure quand c'est nécessaire, réinvestir quand il le faut, distribuer des dividendes à l'État quand il le faut, réinvestir ou tu vois, c'est-à-dire il faut qu'ils aient cette capacité à être souples. Et c'est ce manque de souplesse qui manque à nos entreprises étatiques. Et je peux citer Algérie Télécom, je peux te citer Algérie Ferry, je peux même te citer Soremep, c'est une entreprise inconnue du grand public que j'ai rencontrée personnellement. Donc c'est une entreprise industrielle qui se trouve à Tlemcen, d'ailleurs que je salue s'ils nous écoutent. Alors t'imagines, c'est une entreprise publique qui a fabriqué pendant le Covid les machines qui distribuaient du gel hydroalcoolique. Donc c'est une entreprise à qui on a interdit pendant un moment de faire de l'exportation. Donc ça, c'est grave. Au contraire, laissez-la vendre à l'export pour faire rentrer de la devise au pays. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait des changements à plusieurs niveaux. D'abord, comme je l'ai dit, dans notre dogme économique, notre façon de penser l'économie, il faut qu'on s'ouvre un peu plus à l'extérieur, dans notre façon de laisser se mouvoir nos entreprises publiques, et puis pourquoi pas les dégraisser, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut pas hésiter à trancher quand c'est nécessaire. Et puis également, ne pas hésiter à les recapitaliser quand elles sont en difficulté, mais bien évidemment en s'assurant que ces difficultés émanent d'une conjoncture de marché et non pas d'un défaut de gestion. Ça, c'est hyper important. Et puis aussi, Gamal l'a dit, je pense qu'à un moment donné, il faut transférer la valeur ajoutée au privé. Faisons confiance au privé. Aujourd'hui, ce qui doit porter l'économie algérienne, c'est, j'allais dire, presque une parité privé-public. Et il n'existe pas de passerelle entre les deux. C'est ça qui est dommage. Et je pense qu'on gagnerait beaucoup mieux, et même pour le bien de l'économie algérienne, si on créait ces fameux PPP, le partenariat public-privé. Il faut qu'on puisse vraiment retisser du lien entre le public et le privé. Et je t'assure, DZ Podcast, qu'on fera vraiment, on fera franchir l'Algérie un palier, mais extraordinaire.
Tu partages cette analyse, Gamal. Est-ce que finalement le plus gros frein aujourd'hui en Algérie ou le plus gros challenge, c'est finalement la gestion des entreprises, que ce soit enfin surtout étatiques. Est-ce que c'est le management finalement notre plus gros challenge aujourd'hui en Algérie?
Oui, parce qu'on se projette pas en termes de gestion réelle. C'est-à-dire qu'on parle pas de rentabilité, on parle pas de réduction de coûts, on parle pas d'augmentation de productivité, on parle pas d'ambition, parce que le sentiment que j'ai en Algérie avec ses capacités illimitées, parce qu'elles sont illimitées. Avec un PIB ridicule, si on compare au PIB de la France, on n'est même pas un 1/15 du PIB français, parce qu'il y a 3 000 milliards, avec un potentiel de gains dans tous les secteurs. Vous faites n'importe quoi en Algérie, ça marche. Le sentiment, c'est que le système administratif qui était calqué sur la France, en pire évidemment, a ralenti tout ça parce qu'il y a des gens qui ont des niches, qui veulent dormir dans leur petite niche, qui veulent pas travailler, qui n'ont pas d'idées, ils sont pas d'idées. Évidemment, les Algériens, quand ils sortent d'Algérie, et ils ont des idées. Ils découvrent le monde et ils se rendent compte, je prends l'exemple par exemple du modèle dont on a beaucoup parlé, qui fait un carton actuellement dans le secteur automobile. Comment il s'appelle déjà? Une vraie réussite.
Yassir.
Algérienne. Yassir. C'est deux Algériens formés en Algérie. Hein. C'est pas les produits de n'importe où. Ils sont formés en Algérie. Ils vont en France, aux États-Unis. Ils reviennent. Ils font un modèle qui cartonne. Il y a des millions de dollars qui sont injectés. Ça marche dans des proportions inimaginables. Ils ont des ambitions parce qu'ils voient que le monde évolue. Ils veulent évoluer avec. Ils commencent à se positionner dans d'autres pays, proposent ce modèle économique qui fonctionne très bien, parce qu'ils ont compris les concepts de rentabilité, d'efficacité, de service, parce que l'Algérie, on a un vrai problème avec l'idée du service, on ne veut pas servir. Ce NIF très mal placé fait qu'on ne sourit pas et qu'on fait la tête aux gens et qu'on les dessert. Et ça, c'est très mauvais, parce qu'en réalité, ça dessert l'image du pays, alors que c'est un pays quand même, quand on est dedans, les Algériens sont sympas et accueillants, mais c'est vrai qu'il faut quand même ouvrir la porte. Et l'autre aspect, c'est vrai, la question est du hub, par exemple, j'ai discuté avec un des affaires récemment. Je demande beaucoup aux Algériens d'investir chez nous et d'investir dans l'export. Il n'y a pas de plafond de verre en Algérie. Vous travaillez, ça paye. Il n'y a pas de problème. Il faut être sérieux. Il faut se taper les quelques semaines d'administration. Mais une fois que vous avez consacré ça, une fois que vous travaillez, ça paye. Et simplement dire qu'il aurait fallu, par exemple, faire un aérien en termes de fret, c'était dit tout à l'heure par Nazim, logistique. Je veux dire, on peut avoir un DHL national, même ça ne dérange pas, parce que c'est national, un DHL algérien qui distribue l'Afrique. Parce que les Africains ont des besoins considérables. On peut avoir, et c'est pas rien d'avoir l'équivalent du DHL bien géré, bien évidemment. On peut avoir, et ça va de soi aussi, un Air Algérie Business qui serait consacré. Ce serait un vol spécialement dédié aux hommes d'affaires qui veulent investir, qui aurait donc des conditionnalités particulières, qui non pas, je parle pas de la business class dans le bien-dur, je parle vraiment d'un vol dédié par semaine d'hommes d'affaires qui iraient faire tranquillement leurs affaires en Algérie, qui relieraient la France ou le Canada, États-Unis à l'Algérie pour pouvoir faire le business. Toutes ces questions-là ne sont pas évoquées. Alors, il y a des choses qui sont faites, il y a une volonté affichée, mais c'est vrai qu'il reste des résistances, il reste à la base des gens qui ne font pas le travail. Il reste, quand on voit plus vraiment que les agents font le travail, je vous donne un exemple très concret, vous allez voir. C'est extraordinaire. On a reçu la dernière fois à la radio, à France Maghreb, on a reçu Damien Onouri. Donc, c'est un franco-algérien, dans le sens vraiment réel du terme, franco-algérien, Onouri, qui s'est installé en Algérie, imaginez, depuis 2014. Qui tente de faire, avec des moyens assez désuets au départ, très réduits, des films, qui a tenté de faire un long métrage, et ça a marché. Il s'est associé avec une Algérienne d'Algérie. D'accord? Eh bien, ce film-là est sorti, La Dernière Reine. Bon, on peut ne pas aimer l'aspect historique, c'est un peu fantaisiste, mais il n'en demeure pas moins qu'en termes de réalisation, c'est une belle réalisation. Quand on l'a reçu, on a entendu dire que le président aime le cinéma, mais il y a des résistances en dessous. Il y a encore des gens qui ont des mauvaises habitudes et qui n'ont pas confiance. Or, si on ne se fait pas confiance, si on ne se valorise pas, quand il y a quelqu'un nul, faut le dire, il est nul, on en parle plus. J'ai donné un nom tout à l'heure, je vais pas vous le redonner, vous le connaissez. C'est un personnage qui se prend pour l'intellectuel, qui passe son temps à sabrer l'Algérie en faisant des analyses fantaisistes, en faisant des digressions du matin au soir, j'aurai l'occasion d'en parler. Ça, c'est pas intéressant, c'est un personnage médiocre. Mais quand on parle de gens un peu de qualité, et il y en a beaucoup chez nous, il faut les valoriser. Il faut dire, moi, je connais quelqu'un, il est formidable, il sait faire. C'est pas un vantard, c'est quelqu'un dont les compétences sont plus à démontrer parce qu'il était sur le terrain. Quand moi, je vois un bon maçon, j'aime la belle maçonnerie, si je vois un bon maçon et qu'il est algérien, je suis fier, comme un DZ. Bien, c'est pareil. Quelle que soit l'action qu'on doit conduire, elle doit être faite de façon non seulement à valoriser les nôtres, capable de dire merci, faire des cérémonies, consacrer la réussite et encourager cette réussite pour que d'autres suivent, parce que le modèle est important. Il faut imiter ceux qui ont réussi. Et l'excellence, qui n'était pas quelque chose d'étranger à l'Algérie avant la colonisation, cette fameuse excellence qui a construit quand même des villes extraordinaires, hein. Je vais pas revenir dans Mzad et autres villes, où, quelles que soient les villes algériennes, d'ailleurs, qui étaient construites à flanc de montagne ou en plein désert. Vous avez vu Ardaïa qui a inspiré un des plus grands architectes français, le Corbusier, qui s'est inspiré de Ardaïa. Il y en a qui ont tendance à penser que c'était à l'ouest. Non, c'est Ardaïa. Eh bien, toutes ces constructions extraordinaires, tout ce passif extraordinaire a été abandonné parce que on a l'impression qu'il y a une chape de plomb intellectuelle qui tombe sur l'Algérie. Et aujourd'hui, il faut que cette jeunesse qui existe, qui est nombreuse, on est quand même plus de 70% des jeunes, ait des idées. C'est-à-dire qu'il faut pas être en panne. Il faut voir. On a l'Internet. Maintenant, on voit le monde. Il faut libérer les énergies. Et pour les libérer, il faut que les structures de l'État, les grandes structures de l'État, que ce soit le fret, le transport, que ce soit le transport interne, ça a été d'ailleurs évoqué par Nazim, les TGV, que ce soit fait. Je vais d'ailleurs féliciter pour le coup, c'est rare quand je félicite les pays étrangers, mais je féliciterai le Maroc, qui a fait un TGV au départ, qui n'était pas la meilleure idée qu'il ait eu, mais bon, il a fait un TGV, il fallait le faire, et qui a pris pour l'extension des TGV, il a quitté la France pour proposer aux Chinois, qui étaient moins chers, le même service. C'est-à-dire que, en termes de qualité, les Chinois n'ont rien à envier aux Français, et qui proposent le même service. Donc l'extension des TGV marocains se fera par les Chinois. Lui, à l'Algérie, peuvent travailler directement avec les Chinois. Je vous donne un exemple très concret pour un peu mon propos un peu long. C'était dit par Nazim tout à l'heure, et c'est bien de le rappeler, l'énergie aujourd'hui, c'est l'énergie illimitée, c'est l'énergie à base de soleil, c'est l'énergie à base du vent, éolienne, c'est l'énergie, la géothermie. C'est beaucoup d'énergie comme ça qui sont propres, nettes, et qui permettraient de garantir un développement rapide de notre pays. Eh bien, actuellement, par exemple, le gouvernement a lancé un plan, et ça c'est faut le dire quand ils font des bonnes choses, quand ils font de mauvaises choses, faut le dire aussi. Mais là, pour le coup, c'est un truc formidable qui m'a vraiment fait des frissons. Ils viennent de lancer l'installation de bornes d'alimentation électrique pour les véhicules en Algérie. Et il y en a, ils ont commencé à en construire quelques-unes, là, je crois une centaine. Il y aura plus d'un millier de bornes qui seront construites d'ici l'année prochaine. C'est-à-dire que déjà, en termes infrastructurels, ils ont déjà anticipé le mouvement de véhicules électriques construits en Algérie, des batteries électriques en Algérie, pour ne plus détruire un produit qu'on exporte, à savoir le pétrole, l'essence. Pour plus détruire cela, et ben ils passent à l'énergie électrique. Et ça, c'est formidable. Ça garantira un petit peu d'abord qu'on respire mieux en Algérie, pour commencer, parce que l'Algérie est insupportable en termes de pollution. Et puis surtout, et c'est important, ça nous permet d'augmenter nos exportations, ça nous permet d'avoir un pays qui est vert, qui est propre, qui est net, qui s'améliore. Et ça nous permet de montrer l'exemple à d'autres. Donc c'est vrai qu'il faut pas perdre de vue. Dès qu'il y a un pas positif qui est franchi, il faut le suivre. Et moi, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, en encourageant ces différentes pistes, il y en a plein. On parle, quel que soit ce qu'on fait en Algérie, vous faites une salle de sport, vous en faites 10, ça marche. Là, ils sont en train de faire des complexes de cinéma, c'est pas trop tôt. Donc la jeunesse puisse s'amuser, ça fait du bien. Tous ces éléments-là concourent à ce que l'Algérie aille mieux, et je pense qu'elle ira de mieux en mieux si les Algériens prennent leur part du gâteau. Et surtout, et ça, je tiens absolument à le dire, le pétrole et le gaz ne nous appartiennent pas. Ça, c'est les biens de l'État pour les grandes structures. Ce qui nous appartient, c'est le travail et les idées. C'est ça qui nous appartient. Il faut mettre ça en avant. Travail, idées. Moi, je ne crois qu'au travail. La valeur travail est la seule valeur qui, pour moi, valorise un homme, l'élève au-dessus des autres et fait qu'on réussit à avoir des Bill Gates ou des Musk ou je ne sais, à la tête de certaines grandes institutions aujourd'hui qui comptent.
Merci, merci beaucoup Gamal. Je pense qu'on va bientôt conclure parce que de toute façon Nazim doit nous quitter. Nazim, peut-être te donner le mot de la fin, enfin un petit mot avant de nous quitter. Après, je passerai à Gamal et puis on pourra conclure.
Écoute, que dire après cette tirade de mon ami Gamal? Non, il a tout dit. Ouais. Effectivement, il faut. Moi, j'ai aimé. Il a dit un mot clé. C'est la confiance. Ouais. Et tu sais, en économie, quand on te l'apprend, même à la fac, en première année, on te dit la clé des relations économiques est basée sur la confiance. Et il faudrait qu'on retrouve confiance dans notre pays. Il faudrait qu'on retrouve de l'optimisme. Il faudrait aussi, effectivement, qu'on puisse relancer la jeunesse. Je pense que notre jeunesse, c'est un véritable moteur. Elle a plein d'idées, elle a plein d'énergie à revendre. C'est juste que soit elle ne sait pas par où commencer, ou soit elle est un peu désarçonnée face à la bureaucratie, parce que ça, c'est une vraie maladie en Algérie, la bureaucratie. Et il faut qu'on la combatte. Et surtout, on la trouve à tous les niveaux. C'est ça qui est complètement ahurissant. Tu vas la trouver lorsque tu as demandé un extrait de naissance, lorsque tu veux ouvrir un compte bancaire, et lorsque tu veux, je sais pas moi, demander un petit document de rien du tout pour ouvrir, obtenir ton registre de commerce. Et ça, il faut absolument que ça soit combattu. C'est la volonté des pouvoirs publics. Maintenant, il faut que ça soit suivi dans les faits. Parce qu'en fait, le problème n'est pas dans les hautes sphères de l'État. Il est beaucoup plus bas, le souci. C'est le petit agent administratif dans la wilaya, c'est le petit agent d'accueil au niveau de la daïra, etc. Donc ça, pour que on puisse changer les mentalités, ça va nous prendre encore pas mal d'années. Mais je pense que moi, c'est ma philosophie, hein, c'est comme ça que je vois les choses. Je pense fondamentalement que par la force des choses, on fait évoluer les mentalités. Quand tu as une personne, 10 personnes, puis tu as l'effet de masse, et puis un changement collectif, tu as comme un raz-de-marée qui vient, et puis soit tu prends la vague qui est en train de se présenter à toi, donc le fameux train qui s'arrête à la gare, soit tu restes sur le quai. Et moi, je pense fondamentalement que notre pays a vécu le pire et que le meilleur est à venir. Mais vraiment, je le dis pas pour être dans une forme de posture, parce que effectivement, je vois les énergies qu'il y a dans le pays. Je me promène dans les rues d'Alger, j'ai sillonné l'Algérie d'est en ouest, je suis allé dans le sud, et je vois, c'est un pays qui, malgré la souffrance, malgré le terrorisme, le colonialisme, le despotisme qu'on a connu avec le précédent pouvoir, eh ben les Algériens sont debout. Et c'est ça qui fait leur force. Et on mettra jamais à genoux un Algérien. Pour peu que maintenant que cette énergie-là, cette résilience, soit targetée, si je peux dire ainsi, qu'on puisse cibler cette énergie vers des choses positives. Il faut qu'on construise ensemble, il faut qu'on ait une communauté de destin. Donc pour ça, il faut qu'on ait un projet commun. Qu'est-ce qu'on veut faire de l'Algérie d'ici 2030 ? Quelle trajectoire on veut donner au pays d'ici 2040? Ayons cette capacité de projection. Remettons la planification dans nos décisions politiques et économiques. Il faut qu'on donne, si on veut éviter que les gens partent dans des pirogues ou fassent le harraga, il faut qu'on leur donne des perspectives d'avenir. Et pour ça, il faut qu'on puisse les aider à se projeter dans le pays. Pour moi, c'est la meilleure possibilité, et surtout qu'on se serve des study cases, c'est-à-dire des cas pratiques de gens qui sont rentrés au pays pour créer de la richesse. Ils ont délaissé le confort de l'Europe, le confort des États-Unis ou le confort de je ne sais où pour venir s'installer en Algérie et se frotter au quotidien algérien. Ces gens-là, ils sont pas fous, c'est juste que ils ont un idéal et ils y croient. Et vraiment, c'est un appel que je lance. Et Gamal, je sais qu'il est comme ça, c'est un amour, c'est un vrai patriote, c'est quelqu'un qui aime l'Algérie. Et je vous assure que pour ceux qui nous écoutent, on n'est pas là en train de faire allégeance à quoi que ce soit, pas du tout. On a juste une vision, on se dit, vaut mieux voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Et sincèrement, si on s'y met tous ensemble, on n'a pas idée à quel point on peut faire de notre pays une véritable locomotive économique, sociale, etc. Surtout avec les défis qui nous attendent. Je fais juste une petite parenthèse, si tu me permets. Il y a eu récemment en Algérie des températures extrêmes. 52 degrés, ouais. 50 degrés à Alger, 48. Ouais. Il y a eu des incendies du côté de Djidjel, de Skikda, du jamais vu. Ça veut dire qu'on est en train de combattre, on va avoir encore d'autres défis à relever, notamment celui du réchauffement climatique. J'insiste beaucoup là-dessus parce que ça fait partie de mes combats aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on travaille main dans la main. Il faut qu'on retrouve une vision commune. Je pense que les pouvoirs publics sont maintenant à l'écoute des attentes et des exigences du citoyen, pour peu que maintenant on se mette à bosser. Et voilà, pour finir, j'ai été ravi de faire ce podcast avec vous. Et sache que je serai encore ravi de le refaire encore et encore. Et voilà, j'allais te dire, c'est pour moi, il faut qu'on croit dans le pays, qu'on croit dans l'avenir de l'Algérie, et j'espère que mon appel sera entendu.
Ben écoute, plaisir partagé, Nazim, et puis merci pour ce message positif en tout cas. Gamma, tu veux rajouter quelque chose là-dessus?
Ben déjà dire que Nazim a déjà investi l'UF, déjà, donc il donne pas de leçons, mais il agit.
C'est vrai.
C'est important de le rappeler parce que ça veut dire que tu fais partie des Algériens qui aiment leur pays. Je suis tout cœur avec lui là-dessus. Je pars moi-même bientôt pour pour développer ma démarche d'export. Il y a des produits qui sont faits en Algérie, par une usine turque en Algérie, et ben je vais exporter les produits turcs dans le textile. Je vais pas hésiter, je vais montrer l'exemple, je vais tout faire pour faire parler de cette démarche. Et je rejoins sur plusieurs points, évidemment, particulièrement l'idée de ne pas se faire confiance. Le commerce, l'économie, c'est le commerce, est basé sur la confiance. Là où il n'y a plus de confiance, il y a tromperie et il y a problème, ça bloque. Nous, on est issus d'une civilisation arabo-musulmane où effectivement le commerce était l'essentiel, hein. Les caravaniers, ils montraient l'exemple en Asie de la qualité du commerce et de la qualité de l'honnêteté des musulmans lorsqu'ils commerçaient. C'est une chose qu'on ne doit pas perdre de vue, c'est important. Et puis surtout de rappeler effectivement que moi j'ai un copain qui m'a dit une fois, j'aurais aimé que l'Algérie soit Dubaï B. Bon, Dubaï dans les excès, hein. On voit le côté éduction, ouais. Territoire qui a réussi à gagner presque 20 millions de touristes en même pas 15 ans. Eh bien, j'aimerais que l'Algérie soit peut-être pas forcément Dubaï Biz, même si en termes d'esthétique, on peut avoir des modèles qui ressemblent à ça, mais surtout soit un pays qui montre une image de presque d'un côté un peu la Turquie aussi par rapport à sa réussite économique et par rapport au fait qu'il y a un tourisme maîtrisé, un tourisme qui reste correct. L'idée de se dire que l'Algérie doit être belle. Alger, par exemple, la capitale doit redevenir blanche, que les différentes régions du pays qui sont méconnues même par les Algériens souvent doivent être connues, reconnues. Les influenceurs ne suffiront pas à les faire connaître. Donc, il y a un maillage économique, un maillage autoroutier, c'est déjà en place, mais surtout les trains, les transports en commun, toutes ces choses-là qui font que les Algériens se connaîtront entre eux. Et puis, faire en sorte que la diaspora, 20% de la population, je rappelle, on est en dehors, 20% de la population, puisse réinvestir dans leur propre pays et en être fiers. L'Algérie, c'est le dernier espoir, je le dis de façon très solennelle, très sérieuse, du monde arabe. Tous les pays arabes progressistes ont été détruits, il ne reste plus que l'Algérie. Donc on peut montrer un exemple de réussite, on est en mesure de le faire, on en a les moyens humains et matériels, on en a les moyens évidemment géographiques, une grande nation, on a 50 millions d'habitants en tout, si on prend la diaspora avec, 52 millions, donc c'est pas rien, tout est possible, tout est ouvert, mais il faut y croire. Il faut arrêter d'avoir un discours d'autoflagellation que j'ai trop entendu pendant des années, tout le temps d'ailleurs, ils sont en train de se critiquer. Ils ont fait un truc, c'est pas assez bien. Ils ont fait autre chose, c'est pas assez bien. Non, si c'est pas assez bien, c'est que nous-mêmes, on n'a pas fait assez, tout simplement. Faut pas tout attendre de l'État. Je veux dire, on a une dignité, on a le NIF, soi-disant. Le NIF, ça consiste à se battre pour que ça aille mieux. C'est dur, c'est long, c'est difficile, mais rien n'est facile. Et puis, la différence entre la France et l'Algérie, puisque je fais une comparaison de deux pays, France avec un PIB 15 fois supérieur, donc la marge de progression algérienne est considérable si on fait le travail. La différence, c'est qu'en France, vous avez un plafond de verre permanent, partout. Vous voulez avoir accès au crédit? Vous n'avez pas accès au crédit, vous voyez des sommes ridicules, il y avait des cautions solidaires des parents sur 20 ans. Vous voulez avoir accès au logement, c'est compliqué, pas dans certains quartiers, mais dans d'autres. Vous voulez louer un appartement, c'est compliqué. Vous voulez avoir des levées de financement par les établissements privés, c'est compliqué. Vous voulez avoir des marchés publics parce que vous êtes avec un nom d'arabe, une tête d'arabe, c'est compliqué. Il y a 10 000 choses qui font que le plafond de verre vous empêchera d'aller très très haut. Et quand on dépasse 15 millions, après, c'est même plus la peine, ne rêvez pas. Donc ça, c'est des réalités qui existent en France, qui sont difficiles. On se bat contre tout avec des charges très lourdes, avec une imposition très lourde, avec la moitié qui va dans les poches de l'État, parce que c'est comme ça. En Algérie, ces problématiques n'existent pas. On a des avantages concurrentiels considérables, les salariés sont beaucoup moins chers, les impôts sont marginaux, les charges sont très faibles, et surtout, il n'y a pas de plafond de verre. On voit Rebra, par exemple, en 20 ans, ce qu'il est devenu. Première fortune d'Afrique du Nord, une des plus grandes fortunes d'Afrique, en travaillant. Il n'a pas volé du pétrole et du gaz, il a bossé. Lui et d'autres, hein, je pense que c'est l'exemple le plus automatique. Et c'est important de le rappeler, c'est possible, faut y croire, faut se battre. Il faut se dire qu'en Algérie, je répète encore une fois, je vais être très très lourd insistant, il n'y a pas de plafond de verre. Que l'Algérien investisse là-bas, il trouvera son compte. En France, il restera un employé ou avec des revenus marginaux, il n'ira pas, il ne se développera pas. Alors que les idées qu'il a acquises ici, il peut les exporter là-bas et là, il va littéralement exploser. J'ai beaucoup d'amis qui ont investi en Algérie, le résultat est sans commune mesure. Donc vraiment, de ce point de vue-là, je pense que vraiment, moi je suis très optimiste, je suis comme Nazim là-dessus. C'est un pays qui fonctionne par saut qualitatif. Avant, on était importateur net de béton, maintenant on exporte, donc ça en dit long. Eh bien, on est capable de faire beaucoup de choses, mais la matière grise, cette fameuse intelligence qui est commune à l'humanité, qui est très importante chez les Algériens, parce qu'on est très bien formés à l'étranger, doit revenir à l'Algérie. On doit faire en sorte que cette valeur ajoutée qui ne sert à rien à l'étranger ou pas à grand-chose, devienne un véritable moteur de croissance pour l'Algérie. Tout est possible à partir du moment où effectivement l'État a décidé enfin, on peut le dire, de libérer une partie des énergies qui ont été trop souvent bloquées à l'étranger.
Merci beaucoup. Merci. En tout cas.
Est-ce que tu peux me permettre juste, parce qu'il m'a inspiré là, son discours m'a inspiré, et je finirai vraiment là-dessus. Je citerai Saint-Exupéry qui disait « Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nos longs printemps à nos enfants. Donc, s'il vous plaît, prenez soin de l'Algérie. Il faut qu'on en prenne soin. C'est notre, au final, notre seule patrie. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
Absolument. Merci beaucoup, Nazim. En tout cas, c'était un plaisir de, voilà, de tourner cet épisode avec vous. J'espère que nos auditeurs et nos auditrices auront pris autant de plaisir à l'écouter. Voilà, moi, j'invite les auditeurs justement à mettre des commentaires, bien évidemment, s'ils nous regardent sur YouTube et à partager, en fait, cet épisode. Voilà, qui était fort, fort intéressant. Aussi, s'ils veulent soutenir la chaîne, et bien évidemment, on pourra éventuellement parler de vos study cases, comme tu disais, Nazim, concernant la création d'entreprises.
Bien sûr.
Ça peut peut-être faire un autre épisode, justement, pour parler de vos expériences et éventuellement montrer un peu les côtés positifs, mais aussi les obstacles que peuvent rencontrer d'éventuels entrepreneurs qui veulent investir en Algérie. En tout cas, si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez également nous soutenir sur Patreon. Donc, on a créé une page spécifique pour ça où on mettra quelques extraits aussi qui n'apparaissent pas forcément dans les épisodes. En tout cas, voilà, j'ai plus qu'à vous remercier, chers auditeurs, chères auditrices. Et puis, on se retrouvera pour l'épisode 15 très bientôt, Inch'Allah. À bientôt. Salut Nazim. Salut Gamal.
Salut.
Ciao.
Ciao.